Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Les mecs que je veux ken.
Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce 68e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Aujourd'hui, je reçois David Azincotte, humoriste et auteur. Vous avez pu entendre ses chroniques sur Rire et Chanson, voir ses sketchs sur YouTube, celui sur la bienveillance ou celui sur les enfants du Montreux Festival. David a aussi écrit une BD, Tiki, une année de chien, disponible en précommande sur le site de la FNAC. Il travaille actuellement à l'écriture de plusieurs scénarios et joue son spectacle Ça va aller à la Nouvelle Scène tous les vendredis à 19h30. Vous pouvez vous faire un vendredi soir à la Nouvelle Scène ou vous enchaîner nos deux spectacles, David à 19h30 puis moi à 21h. De mon côté, je joue également les samedis à 21h et ce jusqu'au 18 décembre. Dépêchez-vous de prendre vos places, plus que 12 représentations. Petite reco, si comme moi vous aimez les documentaires et notamment ceux sur la fraude ou l'évasion fiscale, je vous recommande Les Rois de l'arnaque, réalisé par Guillaume Niclou qui vient de sortir sur Netflix. C'est dingue. Bon, si vous n'êtes pas antisémite, ce film peut vous rendre antisémite car c'est vraiment l'histoire de juifs filous diaboliquement malins avec la thune. Et si vous êtes philosémite, ce film est aussi fait pour vous. Ça va un peu accroître votre fascination pour les juifs, votre émerveillement effrayé. Deuxième reco. Ne manquez pas l'expo photo de mon amie la formidable photographe Adeline Rapon à Paris dans le square Alban Satragne devant la médiathèque Françoise Sagan jusqu'au 1er décembre. Cet épisode est sponsorisé par Katz, marque française de nourriture pour chats. Tous leurs produits sont fabriqués en France. Katz collabore avec de petites entreprises qui sélectionnent rigoureusement leurs matières premières pour assurer les meilleurs apports nutritionnels à nos matous. Grâce à cette sélection pointue, Katz n'utilise aucun exhausteur de goût ni arôme artificiel, contrairement à d'autres marques. Toutes leurs recettes contiennent plus de 40% de protéines, issues de viande et poissons sélectionnés pour leur haute digestibilité. Les menus vont de 24 à 45 euros par mois, suivant les besoins nutritionnels de votre chat. Le prix inclut les repas personnalisés, la livraison à domicile et un accès illimité aux conseillers et experts vétérinaires pour vous conseiller au mieux. Donc un bon rapport qualité-prix. Lancez-vous, sans oublier mon code promo, MINOU, pour 50% sur votre première commande. Bon, je crois que vous avez moins 50% dans tous les cas sur votre première commande, ça c'est un peu bizarrement foutu, j'avoue, mais utilisez mon code promo MINOU, comme ça ils sauront que vous venez de ma part, et j'ai insisté pour qu'ils vous envoient des petits cadeaux, tapis pour poser la gamelle de votre chat, petite balance pour peser ses croquettes et autres mignonneries cats. Dans cet épisode, avec David, nous avons beaucoup parlé écriture, faut-il dire au public ce qu'il veut entendre ? Puis politique, sommes-nous en dictature ou en démocratie en France ? David et moi avons débattu avec beaucoup de curiosité pour le point de vue l'un de l'autre. Nous sommes aussi revenus sur l'affaire autour du dernier special de Dave Chappelle. À un moment, vers la 7e minute, lorsque nous parlons écriture de série, je cherche un mot, il s'agit de feuilletonesque. Voilà, je vous donne cette clé. Et j'espère que vous apprécierez les chemins qu'ont emprunté nos pensées le long de cette conversation. Bonne écoute ! Comment vas-tu, David ?
Bien. Bien, ça va, tranquille.
Et ben alors, on rentre direct dans l'art. Je te lis ton petit poème. David Azincotte. David, c'est le bon mot, le sens de la punch en temps record. On prend des verres avec des amis, l'un d'entre eux raconte une anecdote tragicomique d'un chien qui brûle, nous rions un peu effrayés et David balance direct hot dog. Et c'est typique, en fait, ce sens de la blague noire, de rire de tout, tout le temps, avec générosité. David est un gentil, c'est un ami. Il est l'un des rares humoristes à avoir vu mon tout premier spectacle à la Petite Loge. Il était venu rire, m'encourager. Il m'avait déjà soutenu avant à la création pour Avignon en participant à mon crowdfunding. David est incroyablement modeste, trop modeste. Je me souviens que j'étais allée voir son spectacle inflammable au Sentier des Halles et David distribuait ses flyers au public à la sortie même du show. Et je m'étais dit, wow, il casse d'emblée le statut qu'il pourrait se donner. David l'anti-star, volontairement plus auteur que comédien, David pur en tout cas, très à gauche. Enfin, un nanar de gauche, comme il y en a peu finalement. Joyeusement amoral, très très Charlie, même si c'est plus trop à la mode. David contre les modes, les effets, les tendances, le stand-up trendy, stylé. David mis en scène par une femme, Olivia Moore. David qui écoute, David sincère, jamais pédant. Assumant les moments de découragement. Mais David écrit
inlassablement. Sur la planète, sur notre sort, David était assez pessimiste et ne voulait pas d'enfant. Or, à bientôt 50 ans, il va être papa. Est-ce que cela change déjà quelque chose chez l'homme, l'humoriste ? David sera-t-il moins noir, plus rose, plus attendri ? Je t'aime beaucoup, David. Merci d'être là, d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast.
Oh, waouh, c'est très gentil. Ouais, hot dog, je sais pas si c'est ma meilleure vanne. Mais... Mais c'est vrai qu'elle était, elle était à propos. Un chien qui brûle, c'est un hot dog. C'est vrai.
Elle était pile.
Elle était pile, ouais. Est-ce que ça change ma vision du monde ? Non, je vois pas. Tout le monde me dit que voilà, quand j'aurai un enfant, voilà, électrochoc, etc., ça va être foufou. Mais j'en doute pas. Hein, mais non, je vois pas comment ça peut changer ma vision du monde. Après, ça va la réduire. Je vais me concentrer sur mon enfant, sur essayer de la sauver un maximum, comme dans tous ces films catastrophes où le père court... pour protéger ses enfants d'un météore qui arrive. C'est vrai que jusqu'à présent, j'en avais rien à foutre qu'un météore arrive. Je me disais, très bien, je vais aller prendre une bonne bouteille de whisky, puis on attend. Et maintenant que j'ai un enfant, je vais devoir courir et essayer de la sauver. C'est chiant.
C'est chiant, mais c'est beau.
C'est chiant. C'est fatigant.
Et en plus, une petite fille.
Une petite fille, ouais, ça me console presque d'avoir un enfant.
Ouais.
Au moins, ce sera une fille. Ouais. C'est toujours mieux qu'un mec. Voilà. Après, elle sera ce qu'elle voudra, encore une fois, il n'y a pas de problème.
Oui, si tu veux dire si elle veut être un mec.
Il n'y a aucun souci.
Ou si elle veut être rien.
Si elle veut être une espèce de blob, il n'y a aucun problème.
Tu ne vas pas lui assigner de sexe à la naissance.
Non. On verra bien. De toute façon, les enfants. J'ai quand même eu le temps, après toutes ces années, à voir les enfants des autres grandir.
Ouais.
De m'apercevoir que la personnalité et les choix des enfants sont faits très, 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 très tôt, quoi.
Ouais.
Vraiment, à 2-3 ans, on se dit, celui-là, il est casse-couille, celui-là, il est marrant.
Ah ouais ?
Celle-là, elle est fofolle, et ça ne change pas. Sauf accident majeur, un bloc de béton qui tombe sur la tête, ça ne change jamais.
C'est très intéressant ce que tu dis. Toi, t'étais comment à 2-3 ans ?
Eh bien, je pense que j'étais pareil. Moi, j'étais un gamin assez dans son monde, quoi.
Je
construisais des trucs dans ma tête, je faisais des Lego, j'étais assez solitaire. Et à 4 ans, c'était 5 ans pareil, c'était pareil, quoi.
T'as pas vécu de grands changements de personnalité entre l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte ?
Je pense pas, honnêtement, je pense pas. Non. D'ailleurs, mes parents me disent souvent que j'ai pas fait de crise d'adolescence. C'est peut-être ça le problème. Mais je la fais tout le temps. Mais
Ouais, tu l'as fait adulte.
Ouais.
Bah, moi, un peu comme toi, mais moi, je l'ai faite. Ou alors très tôt. Parce que j'étais enfant, hyper solitaire, assez colérique, vraiment relou, quoi. Hein. Et puis, par contre... J'ai quand même vachement changé de personnalité puisque j'étais totalement asociale, tu vois. Alors, le théâtre et ensuite devenir délégué de la classe, etc. Enfin, au collège, j'avais pas la même... Du moment... Déjà, quand tu changes de corps, en fait, le fait d'avoir... Tu vois, change ta personnalité. Le fait d'avoir été une enfant bouboule et d'avoir la personnalité qui va avec... Ça
moi aussi, j'étais un enfant bouboule, bien sûr. Mais je pense qu'en fait, on est déjà... Ce qu'on... Enfin, c'est vraiment... Ça fait déterminisme à la con, mais évidemment, il y a l'éducation, il y a des trucs qui te font évoluer, mais plus ou moins... S'il ne se passe pas d'accident, tu as plus ou moins envie d'être ce que tu es au début, quoi. Et moi, j'étais un mec tranquille à lire des bouquins. Enfin, pas à 3 ans, je ne savais pas lire quand même, je ne suis pas un surdoué. Mais voilà, et être dans mon monde. Après, j'étais asthmatique. Donc, voilà, tu ne vas pas courir, jouer au football, etc. Mais tout ça, finalement, avec le recul, je me dis, c'est des péripéties qui n'ont pas forcément changé ce que j'étais à la base. Et après, oui, je suis moi aussi plus extraverti peut-être que je l'étais à un certain moment, mais en même temps, pas tant que ça, quoi. C'est assez marrant, c'est un peu comme dans les séries. En ce moment, je fais un atelier de séries, on explique que le personnage, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le personnage ne change pas tant que ça. Dans le premier épisode, tu vois déjà ce qu'il est. Il y a un potentiel, quoi, entre guillemets.
Génial.
Et finalement, j'y crois assez. Peut-être que je regarde trop de trucs, que je lis trop de trucs sur le scénario et du coup, je commence à me voir comme un personnage moi-même.
Ouais, mais c'est bien. Ça va être... Mais ça, il faut absolument, en effet, que tu y crois trop à ce projet. Bon, peut-être faut le dire aux auditeurs, en effet. Alors, tu bosses sur un truc avec mon père, ce qui est un peu. Je vous ai mis en contact.
Je bosse sur un projet, effectivement. Ouais. Je bosse sur plusieurs projets en même temps. Voilà, pas ce projet-là, que ce projet-là, mais je bosse sur un projet de scénario, effectivement, avec ton père, un homme charmant. et c'est vrai qu'à force de bosser sur des trucs de personnages, tu commences à te voir toi comme un personnage.
Ouais.
D'ailleurs, c'est un exercice qu'on fait en fait. Un des profs nous a dit, vous allez prendre quelqu'un de votre entourage et on va le transformer en personnage. On est parti d'une base réelle, on a décrit des gens qu'on connaissait et après chacun a repris le personnage de quelqu'un d'autre en fait, pour en faire un personnage réellement plus complexe. Enfin, plus complexe, plus, en tout cas plus visuel, quoi. Mais on est parti de base réelle. Et en fait, tout le monde peut faire un bon personnage, évidemment.
Il y a des... Il y a des méchants. C'est difficile de ne pas être... c'est difficile de trouver la sincérité. Moi, qu'est-ce que j'ai vu récemment dans des séries que j'ai trouvé trop caricaturales ? C'est dans la saison 2 de Sex Education, ils font venir une nouvelle proviseure. Mmh. Et tu l'as vu ?
Non, je ne l'ai pas vu, mais elle met des uniformes, c'est ça ? Non, c'est
ouais, ça. Et en fait, elle est censée être cool. Elle a l'air cool au départ parce qu'elle est jeune et belle, mais au final, il se trouve qu'elle est très rigide. Mais ils essayent de lui trouver une faille parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et qu'elle fait des fives, donc on la voit. Ah. Et je trouve que tout est très coordonné, quoi. C'est vraiment le souci de... Enfin, la difficulté du scénario, c'est l'effet Fleabag, quoi. C'est quand tout d'un coup, tu as l'impression que, bah, tu vois, il n'y a pas de ce fameux. Et puis, pareil, bon, je spoil. Ah merde, si vous n'avez pas vu la deuxième saison de Sex Education, elle tombe enceinte et puis se pose des questions sans rien révéler sur l'identité du père. Et ça paraît tout d'un coup, j'ai l'impression que c'est des choses qui. Ça doit être ça la difficulté, cette espèce de péripétie, comment on dit, de la chronique. Enfin non, justement pas de la chronique, le côté pour créer de la... Comment on dit, tu sais ?
Quoi, des rebondissements ?
Ouais, les rebondissements. Et bah,
je connais pas encore tous les termes, hein. J'apprends encore.
Je sais plus lequel, mais tu sais, les effets du... Bref, je trouve que ça, c'est très dur de pas se perdre dans des choses que t'as déjà vues et de garder l'idée de... Tiens.
Ben ouais, mais comme tous les personnages doivent être tous avoir leur faille maintenant, les méchants doivent être un peu gentils, les gentils doivent être un petit peu méchants, faut trouver un secret, faut trouver un machin. Bon, c'est un autre débat. En tout cas, c'est différent du stand-up, c'est sûr. C'est différent comme exercice, c'est vraiment différent. Parce que tu te détaches de toi et enfin jamais complètement, mais tu crées vraiment des choses différentes que avec des problèmes que tu te poses pas parce que sur scène tu veux faire passer une image et là tu t'en fiches, ce sera joué par quelqu'un d'autre et puis.
Mais c'est pas mal de se détacher du stand-up de temps en temps. Ça fait du bien, ça aère la tête, ça ouvre un peu.
Tu peux créer un personnage cannibale sans aucun problème, quoi. Pas de souci.
Oui, puis t'es pas le fait de sortir de la punch, de la blague, te fait quand même réfléchir parfois un peu plus loin.
Ouais, c'est vrai, ça te force à prendre un peu plus de temps, peut-être. Moi, c'est vrai que je réagis beaucoup à l'actu, alors j'ai toujours l'impression de ne pas prendre assez de temps, et des fois c'est vrai, des fois je fais « c'était vraiment une blague de merde ». Bon, pas au point d'être harcelé par des trolls, mais ça viendra sûrement.
T'as été harcelé ?
Non, j'ai jamais été harcelé, j'ai reçu des insultes, comme tout le monde. Ouais. Après, bon, je suis un mec, donc je ne reçois pas d'insultes à caractère sexuel, personne ne veut me refaire le cul pour l'instant, mais...
Sois patient.
Voilà, ça va arriver, j'espère. Mais non, j'ai reçu des insultes, bien sûr, mais pas coordonnées, quoi, jamais coordonnées. Ouais. C'est pas devenu assez visible, ou mes blagues n'étaient pas assez méchantes, peut-être. Peut-être que si la blague sur le hot dog, peut-être je vais avoir la SPA sur le dos. Quoi.
Ouais. Oh, alors attends, tu sais, moi, qu'est-ce qui est venu m'embêter ? Donc, il y a un sketch qui a été capté au Tarmac où je dis, donc je fais des blagues sur la façon dont je me suis occupée pendant les confinements et je dis qu'en gros, j'ai regardé pas mal de documentaires et je dis, j'ai regardé un documentaire sur le potentiel danger des huiles essentielles. Et oui, je sais... En gros, la blague, c'est que si tu regardes un documentaire sur le potentiel danger des huiles essentielles, c'est que ta vie manque cruellement de danger. Voilà, fais quelque chose, tu vois. Et après, je dis va à Gaza, écris vive Israël, je sais pas. Tu vois. Et je me disais, oula, ça, je vais avoir des petits soucis. Et figure-toi que non, en fait, c'est les gens qui sont contre les huiles essentielles qui scrollent.
Ah oui, bien sûr.
Donc il y a une nana qui la vidéo a pas fait beaucoup de vues, mais en fait qui a dit danger des huiles essentielles, etc., cancérigène, machin. Bon, elle met son truc, il y a pas de souci, c'est sa croyance. Mais ensuite chaque commentaire en dessous, positif ou négatif, en mode cette meuf est nulle, cette meuf est drôle, elle répond le danger des huiles essentielles de machin, des trucs et tout. Alors que juste après on a quand même une blague sur Gaza, tu vois, qui est beaucoup plus je sais pas si ça
manque d'huiles essentielles au Proche-Orient, c'est vrai. Ça manque pas.
Et si on résolvait le conflit israélo-palestinien avec un peu de menthe poivrée.
Allez,
du radis de Sarah. Je te jure.
Mais c'est
étonnant les susceptibilités des gens.
En fait, ouais, on en parle tout le temps, de toute façon, mais on ne sait jamais ce qui va déclencher l'ire de quelqu'un, en fait. Ça peut être si demain on dit ce tabouret, il est bancal, l'Union des fabricants de tabourets va dire quoi ? Vous voulez dire que tous les tabourets, c'est de la merde ? Vous pensez un petit peu à la menuiserie française ?
C'est étonnant ce que les gens ont à cœur. Moi, là, je vois dans le spectacle, récemment, les réactions les plus épidermiques que j'ai eues, ce n'était pas les blagues de cul ou les blagues d'humour noir, c'est quand je me foutais de la gueule de gens dans la salle en me foutant de la gueule de leur ville.
Ah oui,
Maine-et-Loire, Nancy. Ouh là là.
Après le body shaming, maintenant c'est le province shaming.
Le province shaming, ça prend une ampleur.
Ouais.
Mais bon, certainement, tant mieux, peut-être qu'on l'a trop fait.
Peut-être, mais bon, il ne restera plus grand-chose.
Ouais.
C'est un peu
mais je fais du parisien shaming aussi. Hein.
Oui, mais, oui, mais ça, on l'attend de nous, en fait. Ouais. Je dis nous parce que moi, je suis parisien aussi. Parisien. Hein. Je suis né à Paris. Donc, je n'ai pas de problème à faire des blagues sur les Parisiens, même si je les trouve faciles. Mais peut-être justement que c'est une réaction de Parisien qui a été trop blessé dans sa parisianité, en fait. À force d'entendre des trucs genre, ouais, c'est tous des connards. Et
moi, je pense. Je pense qu'il y a. Tu vois, c'est
on
pas.
Est tous des connards,
non, je pense que les, non, je pense qu'on est moins gentils que les gens en Provence, c'est sûr. Les gens sont, ils sont plus gentils, mais vraiment littéralement plus souriants, plus.
Ouais, non, je sais pas moi.
Ah ouais, tu trouves pas ?
Non, le public est plus sympa souvent en province.
Le public, incroyable ! Ouais.
Mais après, les Parisiens que je connais depuis mon enfance, puisque je suis né à Paris, ils sont gentils en fait. Moi, je les trouve gentils. J'ai souvent l'impression que c'est l'éternel débat. Est-ce que vraiment les Parisiens méchants sont des vrais Parisiens ?
Ouais. Bien vu. Ouais, t'as raison, c'est vrai qu'il y a beaucoup de postures. C'est vrai, hier, je suis allée au théâtre voir une nana qui m'avait demandé d'aller voir son spectacle, donc j'y suis allée je donne pas trop d'infos pour que tout ça reste flou, l'anecdote, mais donc je retrouve avant son copain que j'avais déjà croisé juste une fois, je les connais peu, et une nana qui elle la connaît, et donc on parle du spectacle qu'on va voir, et le mec lui dit ah bah tu devrais aller voir aussi Rosa, elle a aussi un spectacle, elle dit ah mais moi je vais pas trop voir le stand-up, je suis plutôt au théâtre, plutôt théâtre public, et je dis ouais moi, tu sais, je dis moi aussi avant j'étais comme toi, j'allais jamais, puis finalement c'est sympa, et je lui donne un flyer. Là, elle retourne mon plaisir, elle me fait « Ah ! Mais tu ressembles trop à Anaïs de Moustier !» Et là, je lui dis « Oui, bah, je sais. » Et elle le dit au mec, elle dit « Mais regarde comme elle ressemble à Anaïs de Moustier !» Et le mec a dit « Je ne connais pas Anaïs de Moustier. » Il a dit « Mais je connais Rosa, alors si un jour je rencontre cette Anaïs de Moustier, je lui dirai qu'elle ressemble à Rosa. » Hyper gentiment, élégamment.
Très belle répartie.
Ouais, très belle répartie. Et donc moi, je dis genre « Oh, c'est chou, ça me fait plaisir, c'est la première fois. » Et elle a « Tu connais pas Anaïs de Moustier ?» Et en fait, elle a bugué dans son snobisme. Ouais. Tu vois, elle était là « Mais enfin, le livre Alice Elmer avec Fabrice Luchini et Nora Hamzaoui. » Et en fait, elle sortait toutes les références des films d'auteur qu'elle avait vus avec Anaïs de Moustier, dont elle était si fière. Et tu sentais que sa revendication, en fait... c'était ça. C'est peut-être ça, la posture du Parisien. C'est à tout prix appartenir.
J'en suis.
Ouais, j'en suis.
Je sais pas, ouais, on me le reproche aussi des fois, même ma meuf me le reproche, ouais. Elle me dit, mais c'est plus un... je crois que j'ai un vrai truc avec les noms, en fait, avec les noms, et les... je tiens ça pour le moment de mon père, qui cite tous les noms d'acteurs de seconde zone, enfin seconde zone, les troisième rôle dans tel
c'est
western.
C'est des références de la culture.
Ouais, mais du coup, j'ai une obsession de... Je dis, mais si, machin, c'est machin, mais si, mais tu l'as forcément vu, machin. Ouais. Fais, calme-toi, c'est pas grave, je l'ai pas vu. Je fais, non, mais tu les vois. Mais putain, mais c'est lui qui jouait le rôle
Oui, non, mais c'est vrai que ça, c'est peut-être un truc un peu intello. C'est comme, tu vois, mon père et sa nana, si jamais à table, maintenant, c'est tout le temps Wikipédia, si jamais il leur manque un truc, etc. Ouais, et en deux minutes, on est sur Google. Ah bah non, parce que tu vois, je t'avais dit, c'est 1967, donc c'est pas 68.
Johnson.
Ouais.
C'est un truc de bon élève, je sais pas.
En tout cas, quand je te dis dans le poème que t'es modeste, voire trop modeste, est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a déjà dit ?
Non.
Non, sérieux ?
Non, ça me touche justement qu'on me dise ça. Non, on me dit pas que je suis modeste. On me dit que je suis arrogant en fait.
Mais non.
Si.
On me dit la personne la moins arrogante.
Mais oui, mais c'est peut-être l'image que je donne quand on me connaît pas en fait, comme j'ai un visage plutôt fermé. Après, je pense que j'ai vachement évolué ces dernières années. Je parle pas, tu vois, de.
Ouais.
Après l'adolescence, etc. Je parle ces dernières années. Je pense que le stand-up a beaucoup joué là-dedans. Je suis beaucoup plus. Je parle beaucoup plus aux gens qu'avant, y compris à des inconnus. Je vais aller parler à des commerçants. Je vais taper la discute pendant une heure avec quelqu'un dans un café, ce que je faisais jamais avant. Mm-hmm. J'étais trop timide, je pense. Et du coup, je pense que pendant des années, on m'a vu comme un mec arrogant, la Gaspard Proust, qui faisait tout le temps la gueule et qui prenait les gens un peu de haut. Et ça me blesse parce que c'est pas du tout le cas.
Ah ouais, pas du tout.
Mais bon, c'est comme ça, on est comme on est. Hein. Enfin, on donne l'image qu'on a, quoi.
Les gens t'associent peut-être à ton personnage de scène. Tu veux dire un peu comme un Anthony Jeselnik qui fait des
peut-être,
blagues.
Peut-être, ouais, je sais pas. Après, mon personnage de scène, c'est quand même moi. Je dis quand même des trucs que j'assume et qui sont parfois durs. Mais ça veut pas dire que... Dans la vie, je suis spécialement arrogant.
Non,
t'es
l'un des rares humoristes qui regarde beaucoup les passages des autres et qui rit aux blagues des autres.
Alors ça, c'est vrai. Je ris, je me force jamais.
Non,
j'aime bien rigoler déjà. Et je ris 99% du temps. Ouais. Les gens me font rire, en fait.
Bien sûr.
Donc je me force jamais. J'adore ça. Et en plus, je dis aux gens, putain, c'était bien, ce passage-là est bien, etc. Et j'ai remarqué que c'est pas toujours le cas. Ouais, non, les gens sont beaucoup plus...
Beaucoup plus égoïstes en rire.
C'était marrant, ouais, j'ai vaguement souri, ouais. Mais je sais pas, ouais, peut-être que ouais, j'ai donné cette mauvaise image, mais bon, c'est comme ça. Hein.
Donc avant tes années stand-up, plutôt tes années créa, tu veux dire ?
Non, mes années créa, ouais. Les gens savaient très bien que j'étais. Ouais, y a un truc quand même, c'est que j'ai l'alcool hyper gentil, je sais pas si t'as déjà remarqué. Enfin, moi, je trouve que j'ai l'alcool gentil. Il y a des gens qui ont l'alcool mauvais.
Moi, je te trouve toujours gentil.
Ouais, mais je suis encore plus gentil quand j'ai bu. J'ai remarqué, okay. Je suis plus souriant. Les gens me disent, les gens me disent pas, t'étais sympa hier, parce que ça serait un peu gênant. Je m'en rends compte, parce que les fois où j'étais le plus archi bourré, j'ai fini vraiment à faire des câlins aux gens, quoi. C'est comme si j'avais pris de la MD. Et en fait, comme je suis assez souvent avec un verre dans le nez, je pense que ça m'a aussi peut-être un peu, pas désinhibé, mais. Rendu plus gentil, ouais. En tout cas, plus apparemment gentil. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Mais si, et c'est évident, et c'est même pour ça que tu arrives aussi tard dans Les Mecs que je veux ken. C'est vrai, c'est qu'au départ, moi, mon cerveau fonctionnait par mec gentil ami et mec pas gentil. Ouh, tiens, allons baiser avec.
Ah oui, d'accord, il y a vraiment une thématique réelle dans l'émission, d'accord. Okay.
Bah, un petit peu, oui, alors je la casse parce que, tu vois, et c'est pour ça qu'il y a des épisodes, mais bon. C'est vrai que des épisodes plus axés sur l'amitié ou sur la passion du stand-up que sur parce que les épisodes sur le désir sont très liés au conflit au fait de pas du tout se connaître. C'est-à-dire de parler pour la première fois. Mais quand tu as tout d'un coup une camaraderie qui s'est installée, c'est d'autres échanges et c'est vrai qu'au départ, la plupart de mes potes, tu vois, il y a plein d'amis que j'ai pas du tout invités dans le podcast. Hugo Gertner, enfin, tu vois, c'est tout raison. Ouais. Mais parce que je me disais, c'est pas la dynamique, le concept de départ. Sauf que quand même, en général, mes amis, en plus d'être gentils, sont souvent intelligents. Donc je me dis, ça ferait quand même des épisodes chouettes aussi.
Ça peut faire
aussi,
un épisode qui s'écoute. Je sais pas. On demandera aux gens. Mais je crois que, en fait, plus j'ai vieilli, plus j'ai voulu dire des trucs que j'avais envie de dire sur scène.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Et les 10 ans sur scène, j'ai probablement lâché un peu la pression dans la vie privée. J'ai jamais été un mec, j'espère, chiant dans la vie privée. J'ai toujours fait des vannes, j'ai toujours fait rigoler mes potes. Mais je pense que je suis plus conciliant et plus détendu maintenant, en fait, voilà, que je l'étais il y a quelques années. Avec les inconnus, notamment. Je suis beaucoup plus détendu en soirée, je vais parler à des gens, alors qu'avant, je restais dans mon coin, quoi.
Et je t'ai jamais vu te mettre en colère.
Alors, il ne faut pas, en fait, me mettre en colère.
Ah ouais, c'est vrai, ça se passe très mal.
Il y a beaucoup de gros lâches qui disent ça, il ne faut pas me mettre en colère. Mais le fait est que je me mets assez rarement en colère, beaucoup plus qu'avant, ceci dit, en vieillissant. Et quand je me mets en colère, je me bats, en fait. Et
tu te bats ?
Ouais,
tu
ouais,
te bagarres ?
Ouais, ouais, je me bats. D'abord, je peux crier très fort, mais je me bats aussi, ouais. Je sais, je n'ai pas l'air comme ça, mais...
Récemment, là, tu t'es battu ?
Non, je ne me suis pas battu récemment. J'ai menacé des gens récemment.
Mais non.
Si, il faisait beaucoup de bruit, il m'empêchait de dormir.
Ah ok, mais ça c'est pas des... D'accord. Non mais moi aussi, ça, j'ai des pulsions de haine,
des pulsions,
de violence.
Voilà.
Des
mais
pulsions.
Maintenant, avec le temps qui passe, je les laisse vraiment venir, ces pulsions.
Ouais.
Alors qu'avant, j'essayais de les contrôler comme Hulk. Mais non, la dernière fois, je me suis battu, c'était pour défendre quelqu'un. Voilà.
Ah ouais, non, c'est ça, c'est chic.
Ça c'est chic.
Non mais je trouve que c'est déjà plus facile d'assumer les pulsions de violence contre des pseudo-inconnus ou des voisins ou des machins. Mais est-ce que genre des gens de ton entourage, des gens que tu connais,
non,
que
je
tu...
me mets, ouais. je me mets pas en,
en danger.
Ça. J'ai pu me mettre en colère parfois dans mon couple,
ouais.
En général, mais dans mes couples, mais non, je me mets rarement en colère. Parce que j'aime pas trop ça, en fait. Non, j'aime pas trop ça. Bah, il faut vraiment, faut que les gens viennent me chercher, en fait.
Ouais.
S'ils viennent me chercher, par contre, je suis rancunier. Voilà, ça, il y a quelques personnes qui m'ont fait de la peine, qui m'ont trahi un peu, ou qui m'ont vraiment profondément déçu, et je suis rancunier. Et je n'oublie jamais. Ouais, ça, c'est. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Comme
ouais,
ça.
Ouais, ouais.
Mais sinon, non, j'aime pas le conflit, mais maintenant, je sais que des fois, on n'a pas le choix.
Ouais.
Mais sinon, j'aime pas ça, ouais. Et j'aime pas ça, j'aime pas blesser les gens en discutant et leur dire des trucs qui leur font de la peine, j'aime pas faire ça.
T'as remarqué que mon père était. Avec toi, il doit être très gentil, mais je sais pas si vous avez déjà traversé la rue ou été ensemble, t'as vu qu'il peut être très colérique, très. Tu l'as pas
je
encore
l'ai
vu.
Je l'ai pas vu, ah, mais ça m'étonne pas.
Il le cache.
Ça non, ça se voit un peu corporellement.
Ouais. Oui, déjà corporellement, ouais.
On voit les gens qui ont un potentiel de boxeur.
Ouais. Ouais, ouais. Bah ouais, il m'a légué ça, ce truc. Enfin, dans la... C'est ce côté un peu à l'israélienne, tu sais, très, très agressif comme ça, ouais. Dans la... surtout dans la rue, dans l'espace public, d'un truc
ouais,
de
s'imposer.
De s'imposer. Ouais. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il le genre pas, ça peut être contre les hommes. Et je l'ai vu, mais hurler sur des nanas qu'il avait à peine effleurées dans la rue. Je sais pas que t'es beaucoup plus gros que cette jeune femme qui a eu le malheur de te frôler. Et mais c'est vrai que c'est terrible comment je reproduis, tu vois. Bah justement, hier au théâtre, après, pendant la représentation, t'avais un mec, tu sais, qui cognait sur mon siège avec son truc. Et ça, moi, mais direct, quoi. Ouais. Genre, je me retourne, tu vois, je tourne la tête et tu vois, vraiment, enfin, j'essaie de le menacer physiquement pour qu'il comprenne qu'il faut pas qu'il recommence, ouais. Quoi. Et je suis...
Non, mais ça peut marcher. C'est la sidération, hein. Faut toujours sidérer les gens.
Ça, ouais. Ouais, exactement, faut très, sidérer. Très apparemment, c'est peut-être qu'on est un peu hypersensible ou dans le spectre de l'autisme. Les mini-agressions comme ça, on les ressent aussi fort. C'est ce que me disait Maurice Barthélémy, tu vois, qui lui est hypersensible et apparemment...
Je crois qu'on est beaucoup à être dans le spectre de l'autisme, en fait. Hein,
ouais, finalement. Enfin, chez les humoristes particulièrement.
C'est ce que dit Jim Beatriz, d'ailleurs.
Ouais.
On est tous quelque part sur le spectre.
Mais oui, et tu sais, les gens qui parlent très fort, moi, ça me rend malade. Si je suis, genre, je prends un thé avec ma petite sœur et il y a une nana, il se trouve que c'était une nana qui venait de Fribourg et elle parle comme ça, je le fais pas dans le micro, mais hyper fort. Et donc,
vous êtes sourde.
Ouais. Et ma petite sœur me regarde et elle me supplie
de ne pas intervenir
ouais, parce qu'elle est un peu comme moi, mais un peu moins. Donc en fait, elle l'est avec, par exemple avec son mec qui est encore moins qu'elle, mais elle l'est moins que moi. Et quand on est avec mon père, c'est lui qui tout, lui direct.
Tout le monde. Ouais.
Ouais. Et donc pas méchamment, mais j'ai tenu. Et puis à un moment, j'ai fait waouh, vous parlez extrêmement fort.
Et là, elle s'est tue.
Elle s'est tue. Mais je pense qu'elle s'est sentie un peu humiliée et que je suis passée pour la méchante. Mais bon.
C'est ça, ouais. Moi, j'aime pas. Ça m'est arrivé. Moi, je sais pas si tu. Bah si, on a fait un plateau il y a pas très longtemps où je me suis un peu énervé sur quelqu'un au premier rang.
Ah oui, oui, mais ouais. T'as bien fait.
Mais je crois que j'ai bien fait.
Et je t'ai pas remercié.
Non.
Je voulais te remercier parce que t'as mis. En fait, tu t'es sacrifié pour la team, ouais. Quoi, pour
mais
l'équipe.
En fait, je ne peux pas m'en empêcher. C'est ça le truc que j'ai remarqué quand je suis sur scène. Il y a des gens qui font ça plus adroitement que moi. Moi, j'ai vraiment. J'aurais jamais pu être prof, quoi. C'est pas possible.
Ah ouais.
Dès que quelqu'un parle, j'attends une fois, deux fois, trois fois. Et la troisième fois, je fais ferme ta gueule.
Mais vraiment. Ouais, c'est insupportable.
Et ça vient direct. Après, j'ai rattrapé le coup.
Super. Et les gens comprennent pas trop pourquoi nous, sur scène, parfois, il y en a qui comprennent pas. C'est vrai que ma metteur en scène, de temps en temps, elle a un peu peur que j'ai des pulsions de violence face à des gens du public. Mais c'est vrai que quand t'as des... Notamment, tu sais, une fois, il y a des représentations, surtout une, où il y avait un mec qui pouvait pas s'empêcher de parler en même temps que moi et surtout de faire les blagues plus fort que moi.
Là.
Et donc déjà, c'est relou de un. Et de deux, je sais pas si c'est mon féminisme qui s'active à ce moment-là, mais c'est-à-dire que là, tu vois, j'ai envie vraiment de l'insulter d'énormes beaufs, quoi. Tu vois.
Mais il connaissait les blagues ?
Non, mais il était avec une nana, il était... T'as quand même pas mal de mecs qui sont un peu les GG, tu vois, de café. Tu dis, bah attends, parce que tu connais pas celle-là. Et donc, et tu voyais, la meuf à côté était saoulée, elle avait honte. Mais t'as, à chaque fois, ça lui inspire. Et résultat, mais alors eux, je me les paye. Mais pareil, il y en a un, la dernière fois, il était là, il voulait en même temps faire les blagues et tout. Et c'était justement un qui venait de province. Et je lui dis, le Maine-et-Loire, c'est dur, c'est sûr, ça doit être compliqué de faire une carrière humoristique là-bas. Hein. Le reste de la salle était en mode.
Tant que le reste de la salle.
Non, le reste de la salle jouissait littéralement et lui, non. Mais ce que t'as fait, c'est que c'était un mec ou une meuf qui.
C'était un mec, il parlait tout le temps à sa meuf, il s'en est allé, il expliquait je sais pas quoi en fait. Et j'en avais rien à foutre de ses explications en fait.
Lucas.
Qu'il se taise. Lucas, ouais. Et une fois au Paname, c'est mon plus bel énervement, je pense.
Ah ouais, raconte.
Je m'en rappelle encore parce que c'était une meuf qui avait un petit chien. Okay. Elle avait un petit chien sur les genoux. Déjà, c'est quand même bizarre d'avoir un petit chien sur
très
les genoux
bizarre.
Dans un spectacle. Parce que les chiens glapissent, il faut le savoir. C'est comme les bébés, il ne faut pas les emmener au spectacle.
Mais oui.
Et elle parlait à sa copine. Elle parlait. Et à un moment donné, j'ai dit, écoute, c'est marrant. On dirait que ton chien chie et que ça sort par ta bouche. Et je lui ai dit ça, mais d'une traite. Je me suis dit, mais d'où ça vient, en fait. Et je me suis demandé après si ça venait pas. C'était pas une insulte. Une adaptation d'une insulte en arabe que mon père sortait peut-être des fois de temps en temps. Maintenant il n'en sort plus parce qu'il veut pas que je les répète. Mais
elle est magnifique.
Mais elle est très bien, mais elle est quand même très circonstanciée.
Ouais.
Il faut avoir un chien et quelqu'un qui parle. C'est compliqué.
Mais finalement, ça a eu quel effet
Elle a fermé sa gueule direct et tout le monde était mort de rire.
Tu m'étonnes.
Je pense qu'elle n'a plus jamais parlé de sa vie en fait.
Ah bah ouais, elle s'est tue pour le restant de ses jours.
Mais c'était tellement efficace. Dans la vanne que là j'avais tout le monde avec moi.
Mais oui.
J'ai pas juste dit ferme ta gueule.
Mais oui.
Et souvent, je dis juste ferme ta gueule. Ou je dis écoute, le mieux, ce serait que tu la fermes, un truc comme ça. Et souvent, ça sèche un peu les gens. Et j'ai beau essayer de contrôler ça, je ne le contrôle pas. C'est une pulsion.
Non, c'est une pulsion. Et c'est une pulsion de violence. Et c'est vrai que si on peut être aussi gentil parfois, c'est aussi parce que pour décharger la charge de, peut-être de violence aussi qu'on met dans nos textes, dans ce qu'on raconte.
Il y a une violence quelque part, ouais. Elle est stockée quelque part, c'est clair.
Mais c'est sûr, évidemment, elle est dans le. Oui, mais moi. Ah ouais, non, parfois, moi aussi, une fois, j'ai insulté une nana, mais moins bien que toi, mais c'était à la petite loge, et en fait, c'était un groupe de meufs, et alors tu vois, la petite loge, tu vois,
là, 15
mètres carrés, donc tu peux pas ignorer, faire comme si tu l'entendais pas. Et non seulement elle parlait tout le temps, et c'est pas mignon un peu, genre, elle répond à ce que tu dis, comme si tu posais des questions premier degré, en mode, ah moi aussi, c'est marrant parce que moi aussi, t'es là. Bon, là, c'était. Elle faisait des méchancetés. Enfin, elle bitchait sur moi.
Ah ouais, non, ça va pas. Ça dégage.
Et tu vois, et donc, résultat, et puis à un moment, mais je les entendais. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je me disais, mais quand même, c'était la méchanceté humaine terrible. Et puis à un moment, je viens d'avoir 30 ans. Et elle dit, et ça fort pour que tout le monde l'entende, on dirait qu'elle en a bien plus.
Ah la pute. J'utilise vraiment ce terme à bon escient.
Mais là, et c'est. C'est pas, on n'en veut pas aux putes, mais parfois,
je le réserve à deux personnes. Ouais. Enfin, maintenant, ça va faire trois. Mais il y en a deux autres. Je ne dirai pas qui c'est parce que c'est des gens plus connus. Mais je réserve ce terme à un homme et une femme que je connais. Voilà, bref.
J'aimerais bien savoir. Tu me diras après.
On en parlera off.
Carrément. Et sur le moment, j'étais choquée. Et j'ai pas, moi, tout de suite, la répartie faite. Je l'ai développée au fur et à mesure du stand-up. Mais là, j'étais tellement choquée que j'ai frosé, tu vois. J'ai repris le spectacle. Et puis à un moment, qu'est-ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit, t'as des enfants ? Et elle m'a dit, ouais, deux. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait qu'ils sont pas au frigo ? Et genre, j'ai commencé à lui dire le fait que, c'était une mère qui congelait ses bébés et tout machin. Ouais. Mais c'était pas... Enfin, c'était assez... Ça a mis...
Ça a mis un froid,
littéralement. Ça a congelé la salle. Mais ça l'a calmée, cela dit. Après, mine de rien, ça a réinstauré l'autorité.
Ouais.
C'est ça, en fait, le plus dur dans notre boulot, c'est de garder ça, quoi.
Comme des profs.
Ben oui.
Comme des profs dans une classe, avec des gamins turbulents, avec la classe de la 5e 2, c'est les pires. Cette année, c'est en chier. Bon, voilà.
C'est une autorité cool qu'il faut avoir. C'est une autorité cool où il faut que quand même, ils puissent, on doit pouvoir un peu les dominer de façon consentie. Quoi.
Voilà.
C'est un peu du sexe hétéro.
Ok, d'accord. Oui, c'est ça. Mais ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait, je sais pas. mais par contre, après, par exemple, je n'ai jamais joué dans une chicha. Je ne sais pas comment réagir à 12 mètres. Enfin, si, je sais, parce que ça m'est déjà arrivé. Mais quand c'est un truc concerté avec 12 mecs qui foutent le bordel, où j'ai joué aussi devant des gosses, ça, faut jamais le faire.
Ouais.
C'était à mes débuts. On m'a dit, tu verras, le public est un peu jeune. Je fais, ok, je vois que des gosses de 13 ans.
Oh merde.
Qui étaient en sortie scolaire. Donc, c'est impossible. Je sais pas, il n'y a pas de comparaison possible. Quoi. C'est comme d'avoir du dent. Je sais pas, t'as sorti du dentifrice, t'essaies de leur mettre dans le tube, enfin c'est impossible.
Ouais, ouais.
Donc j'ai commencé trois blagues, puis je suis sorti, quoi, c'est juste, j'ai arrêté.
Ah ouais, non, ça c'est impossible, mais moi en plus ça me fait trop chier quand il y a des enfants dans la salle alors que tout le monde les regarde et tu fais le spectacle pour l'enfant et puis machin. Par contre, à un moment, je faisais des animes et je faisais des spectacles de marionnettes pour les petits et ça par contre c'est formidable.
Ça me fait rire, c'est le terme marionnette.
Et c'est ça, c'est trop beau, c'est ce que tu vas voir avec ta fille, c'est sublime quand même cet endroit de naïveté. Alors après, ils étaient très intenses en général avec les marionnettes. Parce que c'est un peu, tu leur mens. Alors moi, au départ, pour qu'ils s'installent, je leur dis, alors les marionnettes sont très timides. Donc il faut vraiment que vous soyez très calme pour qu'elles acceptent de venir. Donc ils sont genre partagés par l'excitation de l'anniversaire, et en même temps, très envie de rencontrer les marionnettes. Il faut vraiment faire monter la sauce de la marionnette qui vient de son pays magique.
C'était des marionnettes avec la main dedans ou la main au-dessus ?
Non, avec la main dedans. Ouais, donc ils sont calmes. Et donc ensuite, la marionnette arrive là. Waouh, mais l'émerveillement, ça c'est magnifique. Enfin, tu vois, c'est trop beau.
Je vais voir ça. Ouais.
C'est trop beau. Mais après, ce qui était compliqué à la fin du spectacle, donc moi, je faisais semblant que Rosa s'endort et les marionnettes arrivent. Et ensuite, je me réveillais, je disais, oh, j'ai dormi. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il me raconte le spectacle de marionnettes ? Alors, en général, c'était trop mignon parce qu'il me disait, alors, il m'a volé le. C'était trop chou.
Avec des problèmes asthmatiques pour tous les enfants. Et ensuite, ils sont arrivés avec les chaussettes.
Et il y avait toujours un gamin qui, en fait, était un peu plus grand que les autres et qui était dans ce truc de « Ouais, en fait, les marionnettes n'existent pas. » Ou alors, voilà. Et donc, résultat,
c'était Rosa.
C'est toi qui fais la marionnette. Et donc, il lui dit... Et au moment où il lâche ça, il y en a une plus petite qui y croyait vraiment. Et tu vois ce truc dans ses yeux, Nietzsche.
De perdre toute confiance.
Et voilà, il y a un truc qui se brise en elle. Et toi, c'est terrible. Et donc, moi, j'étais là genre « Mais non, mais pourquoi tu dis ça ? Elles sont parties. Ah ouais, elles sont parties où ?» Et ensuite, ce même gosse passe ton après-midi à essayer de fouiller dans tes affaires, ton coffre, à chercher des putains de marionnettes. Ouais, mais bon.
Ouais, je posais la question parce que moi, je déteste les marionnettes à fil, en fait. Les marionnettes un peu modernes, entre guillemets, quoi. Les, tu sais, les grandes marionnettes d'un mètre, un peu les trucs en Europe de l'Est et tout, là.
Ouais, avec, c'est très flippant. Ouais.
Avec des vrais visages.
Mais c'est beau.
Tout, ça, ouais, c'est flippant. Mais c'est flippant, ça fait peur. Ça me terrifie. J'ai, j'ai envie de tout brûler, en fait. Mais par contre, les marionnettes chaussettes,
les marionnettes chaussettes, c'est trop mimi.
Ça, c'est mignon.
Non, c'est trop mignon.
Voilà, chacun ses phobies, moi, c'est ça. Le...
Ah oui, 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 non, bien
les
sûr.
Les poupées, tout ça, je déteste, en fait.
Ouais, les poupées, ça fait un peu peur, ouais. Ouais,
ça va être sympa avec une fille, mais...
Ouais, bah, tu
peut-être
verras ce qu'elle aime. Peut-être qu'elle n'aura pas de poupée à l'ancienne. Ouais. Mais en tout cas, tu lui raconteras des histoires, et ça, c'est trop mignon, quand même.
Oui, bah oui, oui, je vais... Ma copine en écrit en ce moment.
Ah bah ouais, non, ouais, mais ça, c'est génial.
Ça, c'est classe d'écrire des histoires. Moi, je suis pas sûr d'être très bon... Je suis pas très bon en storytelling, déjà, sur scène.
Ouais.
Et quand on me demande, raconte-moi une histoire, je suis pas très... Genre, alors, c'est un prince, il a un cheval, et il y a plus d'avoine, alors du coup, faut qu'il aille chercher... Enfin, j'ai pas une imagination de folie, en fait, pour raconter des péripéties immédiates.
Qu'est-ce que je racontais, moi, comme histoire, quand je faisais des babysitting? C'était l'histoire de... Ah ben c'est souvent le voyage, le récit initiatique. Alors il part, et puis il tombe sur un truc. Enfin, tu fais durer.
Oui, c'est ça.
Le but, c'est qu'elle s'endorme.
Comme Tolkien. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et ils arrivent à une auberge, et là, il y a un géant, et ouais. Moi-même, je m'endors quand j'entends Tolkien. Donc, ouais, et là, il y a des elfes, sans déconner. Putain, c'est fou, ça. Il faut traverser la forêt magique. Ah ouais.
Non, je suis désolée de ne pas avoir encore pu venir voir ton spectacle à la Nouvelle Scène.
Écoute, vous êtes nombreux et nombreuses à ne pas l'avoir vu.
Non, mais
il ne peut que se bonifier, de toute façon.
C'est ton combientième, là ?
En vrai, c'est le quatrième.
Ah, t'écris énormément.
Bah non, parce que c'est le quatrième en 10 ans, c'est pas non plus foufou, quoi.
Bah attends, en 10 ans, la plupart des humoristes qu'on connaît, ils ont 5 minutes, hein.
Ouais, mais ils ont peut-être raison d'attendre, parce que moi j'ai tendance à mettre vite une affiche et à jouer vite. Enfin, le premier, ça a été ça. Le premier qui est devenu fils de pub, parce que je dis le premier, il a eu plusieurs affiches avant de devenir fils de pub. Il a une petite évolution pendant 1 ou 2 ans. Et ensuite, il y a eu Inflammable, ensuite, il y a eu Animal, et ouais. Maintenant, c'est Ça va aller.
Voilà. Et Animal, c'était sur l'écologie, mais Ça va aller aussi ?
Ça va aller aussi, parce que les thématiques sont totalement les mêmes, quoi. Ouais. Disons que je parle beaucoup moins de terrorisme, par exemple,
ouais.
Ou de religion que dans Inflammable.
Ouais.
Parce que je crois que j'ai fait le tour.
Oui, puis on sortait des attentats aussi.
Ouais. Après, je crois aussi que j'en ai marre. Ça me fatigue, en fait, de répéter tout le temps les mêmes choses. Ça sert à rien, quoi. Et puis j'en ai marre. Et puis la période change, effectivement.
Ouais.
C'est pas que pour moi la menace terroriste a disparu, ou qu'il y a moins d'intégristes, ou que les gens sont devenus plus intelligents d'un coup. Hein. Au contraire, ils deviennent de plus en plus bêtes. Mais bon, voilà, j'en ai parlé. Je vais pas en parler 12 fois de suite, quoi. Et puis pour le coup, la planète, elle continue à flamber. Donc ça reste des sujets d'actu. J'ai gardé quelques blagues d'Animal, parce que c'est quand même un spectacle que j'ai pas joué. J'ai fait une exceptionnelle, ce qui était le plan. Je l'ai écrit exprès pour la Journée internationale des animaux en décembre 2019. Donc je l'ai joué. Et ensuite, après il y avait la pandémie.
C'est ça.
Et donc,
L'as joué un peu au point virgule.
Alors, je l'ai joué au point virgule, ce qui est une erreur monumentale que j'aurais pas dû faire.
Ça correspondait pas au lieu.
J'étais censé jouer Inflammable, et mes producteurs de l'époque m'ont dit il faut jouer de nouveau. Et en fait, c'était pas du tout la bonne idée, parce que c'est pas comme ça que je l'avais conçu. Je l'avais conçu pour être un one shot qui durerait 1h30 et qu'il a fallu réduire en 55 minutes d'une semaine à l'autre. Ce qui est très stupide, en fait. Surtout avec des blagues qui ne sont pas toutes rodées comme elles devraient l'être. Et en vrai, j'ai fait d'Animal ce qu'il devait être. C'est-à-dire que j'ai gardé 10 minutes d'Animal que j'utilise encore maintenant, qui sont des blagues que je fais sur les plateaux, etc. Et voilà, c'est tout. C'était fait pour ça.
Ouais.
Donc ça va aller. Et le spectacle qui aurait dû sortir, je dirais, en 2020, pendant à la place de la pandémie, quoi. C'est le nouveau spectacle qui devait sortir.
Ouais.
D'ailleurs, j'ai testé des blagues entre les deux confinements. J'ai testé des blagues qui sont dans Ça va aller, mais j'ai testé genre un quart d'heure, quoi. Et puis après, j'ai rajouté 40 minutes, quoi. Voilà.
Bah ouais, ouais, c'est vrai que cette tentation d'écrire, elle est louable. On a envie de mettre un peu. Moi, je suis un peu partagée parce qu'il y a des trucs que je veux écrire des nouveaux trucs. À chaque fois que j'écris des nouveaux trucs, ça marche bien dans le spectacle. Mais ensuite, en plateau, là, j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je fais le même seul set. Ah, si, quoi, toi, quand t'étais là, j'ai fait des nouveautés.
Ouais, il y a des nouveaux trucs, ouais.
Ouais, ouais.
Ouais,
sur justement mon père, l'enfance, Trotsky, oui, etc. Voilà, ouais. Ça a très bien marché ce soir-là. Ils étaient réceptifs. Mais tu vois, je les ai fait en. Ça, ce set-là, en première partie, c'est un peu trop intimiste.
Peut-être, ouais. Ils attendent de la vanne.
Ouais, pur et dur.
Ouais, plus rapide.
Ouais, plus rapide.
Entre guillemets. Moins perso.
Exactement. Ouais. Ils sont pas. Faut que ce soit plus en observation et moins en présentation, parfois.
Je pense qu'il y a vraiment du matériau qui est évidemment dans l'idéal. Je pense encore que tout ce que tu fais dans un spectacle peut être mis dans un set. Mais en vrai, c'est pas comme ça.
Ouais, c'est un équilibre assez difficile. Et en même temps, justement, moi, j'ai du mal maintenant à retourner voir des seuls en scène, sauf si c'est pas des seuls en scène de génie. C'est-à-dire genre style Thomas Poitvin ou Marc Fraise ou tu vois, ou genre un truc. Mais quand je vais voir des seuls en scène un peu de comédien ou comédienne, c'est pas que je trouve ça feignant, mais je me dis j'ai envie de les foutre sur un plateau.
Ouais. Et tu voudrais qu'il y ait plus de rire en fait.
Pas plus de rire, mais je trouve ça trop. Je me dis ah ça s'écoute, c'est trop facile. Enfin, je trouve que en fait mine de rien nous la pression monumentale qu'on se met du rire et de l'efficacité, c'est aussi un peu une exigence
de rythme,
et de penser. Entre guillemets universel dans le sens où ça te force quand même à questionner tes rêves, tu vois, et en tout cas tu peux plus les faire sans savoir que tu vois, en effet, moi dans mon spectacle j'ai des blagues sur Glucksmann et quand les spectateurs sortent ils me disent ah bah tu en as pas, tu en parles une fois puis tu en reparles plus après, donc les gens genre en revolent. Et par contre ça je l'ai fait dans un plateau récemment et Glucksmann,
ils savent pas qui c'est. Tu dirais le mari de Léa Salamé, peut-être. Et encore, c'est pas sûr. Mais c'est ce que j'ai appris The Hard Way aussi, c'est que à moins de faire un spectacle qui s'appelle « Je suis fan de Star Wars » et tu vises que des gens qui connaissent Star Wars, tu peux pas faire des vannes sur quelqu'un d'autre que Dark Vador dans Star Wars, en fait. Ou Luke, à la rigueur. Mais en fait, si tu commences à élargir en disant « parce que sur Tatooine, en fait, quand les Stormtroopers, ils arrivent avec leur... » tu perds tout le monde, Et c'est valable pour, malheureusement, quasiment tous les sujets.
Mais carrément, et c'est pour ça que les blagues d'actu, en vrai, elles sont marrantes à la radio, mais moi, sur les plateaux, j'en fais de moins en moins, à vrai dire.
Elles sont marrantes le jour J.
Le jour J. Mais il faut que ce soit vraiment genre Mélenchon, tu sais, quand il avait pété... Enfin, les trucs très gros. Mais parfois, tu dis Pandora Papers, les gens, ils s'en foutent.
Ils s'en mettent les couilles, surtout les trucs financiers. Non, par exemple, le jour où Aznavour était mort, j'ai dit... je me suis filmé et au Paname et j'ai dit je peux pas, comme il avait des problèmes avec les impôts, je peux pas empêcher de penser qu'il est parti avant le comment
le fisc,
le prélèvement à la source l'instauration du prélèvement à la source. Et deux jours après, Charlie Hebdo a fait la même en une du journal. Et donc c'était la vanne de la semaine.
La vanne de la semaine.
Et forcément là, les gens savaient qui je parlais parce que c'était Aznavour, il savait qu'il était mort.
C'est comme Griveaux, les blagues sur Griveaux, mais on ne les a pas fait une semaine, on les a faites pendant un an.
Elles peuvent encore tenir.
Elles peuvent encore tenir. Aujourd'hui, tu dis Griveaux, les gens ont un sourire.
Quand tu dis beat, les gens pensent à Griveaux tout de suite immédiatement. C'est parce que j'ai eu ce débat-là avec mon frère, qui est un fin observateur de mes spectacles. Et il m'a dit, arrête de faire des vannes sur Griveaux. Je dis, je fais pas des vannes sur Griveaux.
Sur les beats.
Mais quand je dis beat et je dis comme Benjamin Griveaux, tout le monde rigole.
Mais oui.
J'ai pas rien. Voilà.
Ça a vraiment réjoui. De temps en temps, t'as un petit sucre, un petit cadeau.
Ouais, je trouve ça bien que ce type il ait marqué la politique de sa bite en fait.
Ouais, c'est ouf.
Sans faire de mal à personne.
Moi, ça me le rend sympathique alors que je l'aimais pas avant.
Exactement. Moi, j'ai vraiment. En fait, ouais, c'est ça. Ça m'a rendu sympathique.
Bah
dit, allez, il est con. Parce que comment on peut se mettre dans une situation pareille.
Bah oui.
Mais bon, il a fait de mal à personne.
Humain. Non, il a fait. Et puis, il y a pas.
Et c'est, finalement, c'est plus sympathique que plein d'autres qui piquent dans la caisse et qui font bien pire.
Largement, ouais. Non, ce qui est très sympathique, d'aller, je trouve, de liquer des photos intimes qui ont été échangées de façon consentie.
Ça, c'est pas très chouette.
Non, ouais, c'est sûr. Mais ouais, ça marche.
Pauvre Benji. Pauvre Benji. On le voit plus, Benji. Qu'est-ce que tu fais maintenant?
Ah ouais, on sait pas. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a un truc. Il y a des gens. En fait, il y a des figures. Alors, si moi, il y en a une sur lesquelles parfois tu te dis c'est facile de taper sur Marlène Schiappa, par exemple, parce que personne ne l'aime.
Et c'est vrai. Mais personne ne l'aime. Et moi, je le fais beaucoup dans mes derniers sketchs.
Ça marche.
Et je dis justement, vous voyez, c'est marrant, il y a 2 ans. Les gens me faisaient « vas-y, arrête, c'est sexiste ». Maintenant, les gens font « vas-y, c'est vraiment une connasse ».
Mais oui, mais parce que même les féministes et les macronistes, et tu sais quoi, je pense même pas que ce soit le fond de sa politique, machin, même si elle a pu être maladroite sur le quartier sans relou. Bon, c'était peut-être de la maladresse. Je crois surtout que c'est sa voix.
Sa voix aide pas.
Sa voix, sa voix.
Qu'elle ait jamais vu un orthophoniste.
Ah ouais, non mais sa voix quoi. Ouais, sa façon de parler en fait.
J'avais un pote qui disait qu'elle était en 3e 2 ou je sais plus quoi. Enfin bref, c'est vraiment, c'est la voix d'une lycéenne. Mais je pense quand même qu'on lui en veut aussi pour son entrisme, mais sa monopolisation permanente du débat public avec une idée par jour, comme les quartiers sans relou. Enfin, c'est de la com, quoi. On voit que c'est du fake. Au début, on peut croire qu'il y a quelque chose derrière, mais maintenant, on voit que c'est du fake. On sait que c'est des gens qui sont juste complètement rongés par l'ambition. Et quand elle sera plus chez Macron, elle ira, je sais pas où, à Rhône-Poulenc, si ça existe encore. Je sais même plus le nom des entreprises. Maintenant, avec toutes ces fusions, on s'y perd. Comme les crapules changent toujours de nom. Veolia, ça n'existe plus. Non, Veolia, ça existe encore. C'est Areva qui n'existe plus. Areva a changé de nom.
Et tu continues à faire des blagues sur Bolloré sur scène ou pas ?
Bien sûr. Ouais. Bah, quitte à avoir une carrière fichue, continuer, tu vois. De toute façon, c'est déjà. Maintenant, je suis vieux, je m'en branle. Et je serai jamais produit par Olympia Productions. Je sais plus. C'est ça, Bolloré qui vient de dire.
Ah ouais ?
Ouais, c'est ça,
c'est
la production. Ouais. Et puis surtout, non, je vois pas pourquoi je m'en prive. De toute façon, n'oublions pas que quand t'as fait une blague, maintenant, elle reste. Donc toutes les blagues que j'ai déjà faites avant,
elles sont là.
Les mecs les trouveront s'ils ont envie, alors autant y aller royalement.
Oui, t'aurais été le premier à vraiment faire des blagues sur Havas, Publicis, Bolloré.
Et puis maintenant, je commence mes spectacles en disant que je suis content que les gens aient plus de masques parce que j'aimais pas l'ambiance coloscopie. Et je dis coloscopie, tout le monde voit, c'est quand on met une caméra dans le fion, on la remonte et il y a des gens qui commentent l'écran en disant ça va, c'est de la merde. Et je dis ça s'appelle aussi CNews. Donc voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que oui, on m'a dit de pas faire cette blague-là. Sur
à la
certains,
télé
bien sûr pas à la télé,
à la radio,
à des gens des gens du groupe Canal m'ont dit cette blague là ce serait bien d'éviter de la faire. Alors ce soir là je l'ai pas faite parce que je savais qu'elle serait coupée au montage de toute façon. Donc je l'ai pas faite. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est que, et ça je le vois maintenant en fonction des captations que je fais sur Canal, tu vas pouvoir dire des choses que tu peux pas dire sur France Télévisions. Sur France Télévisions, tu vas pouvoir dire des choses que tu peux pas dire sur Canal, tu vois, parce que France Télévisions, je peux le dire, a peur du gouvernement. France Télévisions a peur. Ils ont peur pour leur poste, en fait, puisqu'ils dépendent directement de l'administration et du gouvernement. Donc, ils ont peur quand on tape sur le gouvernement. Ils ont peur quand on tape sur l'État. Ils ont peur quand on tape sur la France. Par contre, tu peux taper sur Nike. Ils n'en ont rien à branler. Ou sur Bolloré, ils n'en ont rien à branler non plus. Et chez Bolloré, tu ne peux pas taper sur Bolloré.
Ni
sur beaucoup d'autres choses, puisqu'il a un peu des intérêts partout. Mais ni sur Zemmour, ni voilà.
C'est terrible.
Christine Béroux qui s'est barrée d'Europe 1 parce qu'il ne fallait pas faire de blagues sur Zemmour. Donc c'est vrai que la liberté d'expression, elle est à géométrie variable suivant les médias.
Après, les blagues sur Zemmour, là j'en ai vu trop sur les plateaux stand-up et vraiment
trop,
mal faites.
Il faut vraiment les choisir.
Il faut qu'elles soient vraiment très belles, originales, parce que sinon les ça devient un cliché.
Je suis d'accord.
Et en fait, ça le sert.
Oui, ça le sert. De toute façon, dès qu'on en parle, on le sert.
Oui.
Mais si on en fait une, il faut vraiment en faire une bonne.
Ouais.
Et moi-même, j'ai du mal à en trouver. Moi-même, je dis pas.
Mais celle sur CNews, elle est très bonne. Celle sur la coloscopie, elle est parfaite.
Elle est très circonstancielle aussi, puisqu'elle cessera quand les gens n'auront plus de masque. Bon, ceci dit, ils n'auront plus jamais plus de masque, puisque
le passe
sanitaire sera permanent maintenant. Mais vive la démocratie.
Après, attends, c'est quoi ? C'est quel journal ? C'est Figaro ou Marianne qui a sorti une couverture sur les médias de gauche avec l'émission de Ruquier et France Inter avec des photos de Charbonneau ?
C'est le Figaro.
C'est le Figaro,
Ouais.
Ça m'a fait réfléchir, cette couve, parce que moi j'étais très, en campagne évidemment contre, tu vois, Canal, Bolloré, tout ça, et le. Mais je me dis, d'une certaine, si on veut, je me se faire l'avocat du diable. Ok, on a des médias de droite, voire d'extrême droite, comme CNews. Mais après tout, on a des médias de gauche, voire d'extrême gauche, tu vois. France Inter par Jupiter, Guillaume Meurice, c'est très à gauche, tu vois.
Après, le reste de France Inter, je dirais pas qu'ils sont d'extrême gauche.
C'est la voix de son maître.
Hein.
Ouais.
C'est un peu la voix de son maître, quand même.
Ouais, Guillaume Meurice, Aymeric Lompré,
mais parce que c'est un peu les punks.
Lui, c'est plus punk, anard. Ouais. Charline l'est, quand même, non ? Ça reste
un peu
diplomate.
Je trouve que quand on est dans une chaîne nationale comme France Inter, on a une posture, je dis pas ça de manière méprisante, mais disons qu'on a une attitude qui doit forcément être gauche compatible, mais que c'est quand même une gauche très gouvernementale. C'est, quand je dis la voix de son maître, c'est que pour moi, on suit avant tout ce que dit, comme France Télévisions, ce que dit le gouvernement. Alors, je sais bien qu'ils sont opposés en ce moment au gouvernement, qu'ils vont taper sur Macron, etc. Mais en vrai, de vrai...
Oui, bah, Pierre-Emmanuel Barré s'était fait virer.
Pierre-Emmanuel, c'est quand même voilà. Barré. Voilà, ouais. C'est quand même fait, sans faire de genoux. Ouais, c'est quand même... c'était pas un genou, c'était un accident. Non, mais je veux dire, j'ai toujours l'impression que France Inter, même s'il y a des fluctuations, évidemment, en fonction de ce que fait le gouvernement, reste quand même une radio très, 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 très pro-gouvernement. Et il y a ces respirations comiques où, par contre, là, on peut se lâcher un petit peu et encore plus quand on est très, très à gauche comme Guillaume ou Aymeric. Mais le reste, c'est quand même... Enfin, on sait bien que c'est pas en faisant des blagues à la radio que le gouvernement va faire « Mais ouais, putain, mais oui, mais ils ont raison, mais oui, on devrait pas donner que 100 balles aux gens, c'est pas normal. »
Et Laurent Ruquier n'est pas non plus d'extrême-gauche, quoi. Non, faut abuser. Il l'est, oui, mais...
Mais je pense que, ceci dit, j'ai été assez surpris de sa virulence dernièrement, mais je pense que, comme beaucoup de gens, et comme moi d'ailleurs, on devient de plus en plus de gauche vu que l'échiquier bouge.
Ouais, bien sûr.
Moi, je me suis jamais considéré comme un mec vraiment de gauche. Hein, Je me suis considéré comme un mec plutôt neutre, un peu.
Pour moi, t'es un anard de gauche.
Oui, mais un anard de. Moi,
normalement, il y a des anards de droite.
Moi, je suis. Ouais,
mais
c'est
toi,
ça.
T'es un anard de gauche. Anard, ça veut dire le côté un peu tout feu, tout flamme, de se retirer, de regarder, mais sans vouloir être dedans, mais avec un peu une espèce de. Et l'anard de droite, il y a quand même au fond un peu. Une pensée un peu de droite, quoi. Derrière les côtés, c'est. Et toi, t'es vraiment un anard de gauche parce qu'au fond, du fond, la pensée, quand même, elle est de gauche. Mais avec.
Je sais pas jusqu'où j'irai. Parce que. Qu'est-ce que la gauche maintenant? Parce que moi, je suis quand même une gauche très laïque, pour le coup.
Ouais.
Je suis vraiment un laïcard. Donc voilà, maintenant, on me dirait. Certains gens de gauche pourraient dire ah non, en fait, t'es droite. Tu vois, maintenant, tout est. Tout
parce
est
que t'es pas un islamo-gauchiste.
Voilà.
T'es pas un islamo.
Je ne suis rien du tout. J'aime bien garder. L'idée que en fait moi je suis communiste tendance Pif Gadget quoi.
Oui t'es plus tu sais comme ma mère elle est plus féministe universaliste elle est pas féministe intersectionnelle.
Mais si je dois vraiment remonter faire ma psychanalyse j'ai été élevé par des parents de centre droit.
Ouais.
Faut pas dire le contraire ils ont voté Mitterrand une fois au début puis après plus.
Okay.
Je crois que la prescription peut le dire mais qui me lisait moi pour m'endormir ma mère me lisait Pif Gadget. Donc tu vois tu me disais qu'est-ce que je vais lire à mes enfants plus tard ou mon enfant en tout cas. Moi, on me lisait Pif Gadget, ce qui est quand même assez original. Parce que j'avais 4 ans, 5 ans, je sais pas pourquoi on m'avait acheté Pif Gadget. J'avais dû demander ça dans un kiosque. Et Pif Gadget, évidemment, le journal qu'il y a maintenant n'a rien à voir avec ce que c'était dans les années 80. Pif Gadget, c'était un vrai truc d'anard. C'était la tendance anard. Ils étaient financés par le PC, certes, mais c'était que des républicains espagnols qui l'avaient fondé. Tout était vraiment une J'ai gardé les numéros de Pif Gadget de ces années-là. Ils aiment pas l'autorité, ils aiment pas les ordres. Les flics, ils aident les flics à mener des enquêtes, mais les flics, c'est des cons. Il y a vraiment une mentalité anard, pour le coup. Et je pense qu'elle m'a effectivement marqué. Ouais. On n'aime pas l'autorité, voilà. J'aime pas l'autorité. J'aime pas ça. Je suis un garçon très poli, mais j'aime pas l'autorité et je l'aime de moins en moins. Et donc, je pense que, oui, Ruquier... lui aussi doit commencer à s'énerver parce qu'il en a marre et qu'il voit que les choses changent en fait, et que l'échiquier shift complètement à droite et moi je me suis déjà fait traiter de gauchiste plein de fois quoi.
Mais par des humoristes
des gens sur internet
les
vidéos vu que je mets aussi bien des vidéos je me fais aussi bien traiter d'islamo-gauchiste que de facho que d'islamophobe, ça m'est arrivé une fois ou deux, que de raciste, que de coco, tout en fait, j'ai eu droit à tout l'éventail. Sexiste, évidemment, psychophobe, antisémite, bien sûr. Antisémite, j'ai le droit aussi.
Surtout.
Bah oui,
mais, un code.
Ah bah oui, mais il y a des juifs antisémites, apparemment, donc voilà. Donc antisémite, ouais, je me suis même fait attendre à la sortie d'un spectacle. Un mec qui voulait me dénoncer, je cite, au service de protection de la communauté juive.
Oh my god.
J'ai dit, les mecs qui sont devant les synagogues, là, avec leurs casquettes, c'est vraiment ça le projet.
Parce que,
ça va pas marcher. Hein.
Ah putain.
Donc, à un moment donné, oui, comme je disais, maintenant, j'en ai plus grand chose à foutre, quoi.
Ouais.
Je pense que c'est la clé du bonheur, de ne plus en avoir grand-chose à foutre de ce qu'on dit. En faisant attention évidemment à ce qu'on dit. Hein, je vais pas dire n'importe quoi.
Bah ouais, mais c'est
vrai. En tout cas, d'assumer ses positions. Quoi, voilà. Voilà.
Mais c'est vrai que c'est compliqué, la volonté de faire rire et en même temps choquer, savoir comment. C'est fin. Il faut que je te fasse le questionnaire de Proust, mais il y a. Moi, j'ai une copine là, qui m'a dit « J'ai peur de venir voir ton spectacle et de tout trouver problématique. »
Oh, c'est horrible de dire ça. C'est horrible de dire ça. Mais il tient le voir au moins, on discute derrière.
C'est le premier message que j'ai envoyé. J'ai envoyé un premier message, j'ai dit, mais bah, écoute, viens, tu me diras, puis ça m'intéresse. Puis si je dis quelque chose de problématique, j'y réfléchirai. Et tu vois, je le remettrai en question. Pourquoi pas. Mais en fait, ensuite, je lui envoie un message en disant, en fait, ne viens pas, par contre, ne te force pas. Enfin, si tu sens que toi, ça va te faire du mal, que ça va te trigger, que t'aimes pas ce type du... Enfin, j'en sais rien.
Parce qu'elle a vu trois extraits. Parce que c'est quand même incroyable de se dire, dès le début, je sais que ça va me poser problème.
Parce qu'il y a des gens qui ont mis sur Bireduc. Enfin, tu sais, aujourd'hui, il en faut très peu, quoi. Oui, tu vois, Rosa pousse les limites de l'humour où tu parles. Enfin, tu vois, j'ai quand même l'impression que ça reste... Non, mais il y a deux, trois blagues un peu noires, quoi. Ouais, un peu noires, qui sont pas des blagues de likeability, qui sont des blagues plus noires. Ouais. Et qui, en effet, je pense encore plus dans la bouche d'une jeune femme. Alors qu'en effet, ce qui est un peu bizarre, c'est, et je l'ai déjà vu avec mes publics, quand j'ai des publics genre purement stand-up, des gens qui aiment l'humour, ils rigolent à tout. Mais si parfois j'ai des auditeurs ou auditrices du podcast qui se sont attachés à ma personnalité et qui sur une heure et demie, voilà, et ensuite et qui sont pas forcément des spectateurs de stand-up, hein. Ils viennent pour me faire plaisir parce que je les harcèle à chaque fois en intro.
Oui, tu les aimes et que tu fais le spectacle pour eux, c'est normal, ils viennent.
Donc ils viennent et qui savent qu'il y a pas d'argent dans le podcast, donc c'est la seule manière d'exister. Voilà. Et puis ils rient, mais ils vont rire pour les choses sur lesquelles ils peuvent me connaître, c'est-à-dire sur l'amour, la sexualité. Puis tout d'un coup, je vais balancer une blague plus noire.
Et ils vont être choqués.
Et ils vont être choqués, ouais. Ouais, ils vont être choqués, mais bon, il faut, faut... C'est pas grave.
Mais
il faut l'assumer. Et tu vois, et c'est Haroun qui m'a, sur Pasquinade, il m'a vraiment, sur l'une de mes blagues, que j'avais il a senti que je la faisais vite, et il m'a dit vraiment...
Prends ton temps.
Prends
assume
ton temps.
Là.
Assume-la, assume-la. Et ma metteur en scène me le redit encore. Il y a notamment tout un passage, etc. Parce que... Et tu l'as vu ou pas, le spectacle de Dave Chappelle?
Alors, toujours pas. J'entends beaucoup de débats autour. Bon, je vais le regarder. Hein. Moi, je ne me presse pas pour regarder les spectacles qui sortent. J'ai vu les précédents. Il y a déjà eu des débats sur sa transphobie supposée.
Non, mais les précédents spectacles étaient bons.
Ah,
les blagues étaient drôles.
Bon, Bah, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux vraiment pas avoir d'opinion dessus.
Regarde-le, tu me diras. Moi, ce n'est pas tellement le sujet, c'est la qualité des blagues.
Peut-être qu'il baisse, mais enfin, en même temps, ça fait 35 ans qu'il fait ça. Peut-être qu'à un moment donné, il baisse. Quoi. C'est normal aussi.
Bah, là, sur ça, j'ai trouvé que... Il y en a une qui est très marrante, mais il y en a une qui est... Enfin, je ne sais pas si je peux la raconter, parce que ça va encore être très choquant, mais tu vois, genre il dit, je ne sais pas, donc il parle des vraies chattes, donc je retransmets mal, hein, des vraies chattes, des vraies femmes, et des fausses chattes, des fausses femmes, etc. Où il dit, ce n'est pas du sens du jus de betterave.
C'est débile.
Et sur le moment, c'est vrai que c'est la blague telle qu'elle est formulée, et j'en ai discuté avec une personne queer, etc. Ouais. Et je lui ai dit, moi, ça comme ça, il y a un degré d'absurde et il y a un truc enfantin qui m'a fait rire, parce que jus de BD et tout. Mais par contre, ensuite, c'est pas tellement le fait que ce soit présumément transphobe, c'est que je trouve qu'il y a d'autres blagues que je trouve plus faibles. Vraiment. Ouais. Bah, parce qu'il n'y a pas de blague. Ils disent ce qu'ils pensent, et c'est Dave Chappelle. Donc, subjugué par son charme.
Oui, mais c'est souvent ça. C'est souvent ça, au bout d'un certain temps, quand les mecs sont connus. Ouais. Mais Dave Chappelle, il était venu il y a quoi? Il y a 6 ans au moins, 5-6 ans, à l'aise, à Paris. Il avait joué 2 soirs. C'était très drôle, mais il passait quand même beaucoup de temps à rigoler de ses propres blagues. Et à se taper le micro contre la cuisse. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Et bon, ça n'empêche pas que j'étais content de le voir. Mais bon, je me suis dit, bon... Voilà. Il faut dire des fois que les mecs, ils sont payés à la ligne et ils vendent des specials. Il a vendu combien ce special?
Ah, 2 millions.
Ah, 100 millions de dollars, j'en sais rien. Donc, faut pas oublier que c'est de l'argent aussi, tout ça. Hein.
Ouais.
Même Ricky Gervais, quand il est venu à l'Olympia la dernière fois.
Ouais, on y était ensemble.
Ah, oui, on était ensemble, c'est vrai. Ouais. Et moi, il y a plein d'autres moments, je me suis dit, franchement, il tire à la ligne, quoi.
C'était moins fort qu'Humanity. Ouais. D'ailleurs, il ne l'a pas sorti, il ne l'a pas vendu. On n'a pas vu la capta de ce spectacle. Peut-être qu'après, il ne l'a pas fini
après,
de le tourner.
Peut-être qu'il a coupé des bouts. Bah, si, attends, ici, je crois qu'il avait. Ouais, je sais pas, comme c'était
des blagues sur les humoristes femmes. Vous êtes pas marrante. C'était pas très fin. Ouais.
Il y avait des blagues. Et puis pareil, sur les gros, son obsession, c'est les gros. Comme c'est un ancien gros, un gros qui redevient gros tout le temps. C'est son obsession qui fait des blagues qu'on pourrait qualifier de grossophobes, mais surtout elles sont pas. Enfin, je m'en fous qu'elles soient grossophobes. C'est juste surtout qu'elles sont pas très bonnes.
Pas très.
Et puis surtout, il a fait le tour, quoi.
Ouais.
Et c'est comme, je pense. Alors, encore une fois, j'ai pas vu le spectacle de Chappelle, mais je pense que Chappelle, il a fait le tour de.
Ouais, lâche.
Des chattes, quoi. Ça m'en donnait. Vraie ou fausse, quoi. Parle d'autre chose. Mais après, je pense qu'on. Comme ils remettent des sous dans la machine tout le temps, ça le relance. Il a envie de répondre,
Oui, et puis c'est courageux aussi, dans le sens où c'est un vrai débat. Enfin, je pense qu'aux États-Unis, la cancel culture, ça prend une ampleur telle que. C'est bien de... Voilà, ça va venir aussi chez nous. C'est bien de questionner. Mais le problème, c'est que lui, il fait même un truc quand même un peu dangereux, un peu à la Dieudonné, tu vois.
Ouais.
C'est qu'il essaye de faire croire que la communauté LGBT s'en prend au noir, tu vois. C'est, ah, pas... ouais. Ça, ouais. C'est un peu manipulateur quand même de monter les gens les uns contre les autres. Sous couvert d'humour, on a déjà vu ça, quoi.
Ouais, ouais.
Et bon, c'est la limite, quoi.
Finalement, c'est South Park qui fait tout ça le mieux encore, hein, je pense.
Ouais.
Il se renouvelle... Ils sont toujours aussi pertinents, je trouve.
Bah attends, moi, il y en a un, Mark Dormand et Sam Morril.
Ouais, ils sont très forts.
Ils sont très forts. Ils sont très forts. C'est un peu les nouveaux pour moi. Louis, bon, mais ils ont une capacité d'invention. Et ils sont tous les deux très modestes. Et c'est deux mecs qui ont percé tard, qui sont là depuis longtemps.
Ouais.
Et tu sens que c'est des vrais fans de stand-up.
Ils sont très low-key.
Ouais,
ils
sont très...
Surtout celui qui a le brun, grand brun, c'est
Morril.
Ouais,
ouais.
Il est très en retrait. J'aime bien aussi ça. J'aime bien ce côté-là. Ouais.
Ah, ouais.
Je les ai vus discuter. Je regarde. J'ai pas vu tous leurs trucs, mais je les ai vus discuter là, pendant la pandémie.
Ouais, We Might Be Drunk.
C'était vraiment sympa. Ouais.
Ouais, très sympa. Ça. Ah, regarde, vraiment, c'est hyper inspirant.
L'énergie dégagée était agréable.
Oui.
Ouais,
We Might
ça,
Be
fait.
Drunk. Et tu les vois rôder et réfléchir à des blagues un peu comme nous, on peut le faire parfois.
Ouais.
Et toi, t'es quelqu'un avec qui c'est très agréable de le faire. D'ailleurs, quand on avait fait un événement qu'on a tous les deux regretté. Mais,
on peut le dire.
Ouais. Parce que je devrais le couper. Ouais. mais en tout cas, je sais plus, j'avais mes règles ce jour-là. Et tu sais, au départ, on faisait des tests micro. Et juste sur scène, je disais, je parlais du fait que j'avais mes règles et que je portais une culotte d'oreille. Puis en sortant, tu m'avais dit, dis-le, ajoute-le. Et grâce à ça, ce petit moment-là, et bah, dans mon spectacle, j'avais une blague et que je termine par ça. Parce que je dis, ouais, moi, je suis pas la meuf qui a le tatouage de foin à la cheville. Il y avait un petit rire sympa. Et puis j'ai dit, je porte des culottes d'oreille. Et j'ai tous les jours. et maintenant, j'ai un gros.
Bien.
Ouais, ça marche bien. Donc merci.
Ouais, ouais, culotte de règle, je pense que ça...
C'est encore assez rigolo.
C'est encore assez rigolo. Peut-être que dans quelques temps, les
mais
gens feront oui.
Mais cela
alors.
Dit, et c'est vrai qu'il y a des... Alors attends, une blague que je faisais quoi, qui marche moins bien parce qu'elle est un peu pas écolo-sceptique, mais je me fous de la gueule d'un gars, très... en fait, je me fous de la gueule de la voix d'un mec, mais je le fais dire des propos écologistes. Et après, ma tête, c'était un peu en mode... Tu vois, mais
oui,
ça
je
voit.
Me rappelle de ce passage.
Tu vois, et bah, ça marche moins bien.
Mais oui, mais c'est aussi parce qu'il y a deux... Ouais. Il y a peut-être, effectivement, maintenant que tu le dis, c'est peut-être ça. C'est que, mais je crois qu'on avait déjà parlé. C'est que le message, tu dis, mais alors, est-ce qu'il y a un message derrière le fait que le mec soit ridicule? Est-ce que c'est le contenu du message? Ou est-ce que c'est sa façon de le dire? Parce qu'il est juste prétentieux. Il dit, moi, je pense que. Là,
il a une voix aiguë et en fait, il dit, l'écologie, c'est l'économie. L'écologie, c'est l'économie. Quand tu parles d'écologie, tu parles d'économie, c'est la même chose. Et en fait, j'imitais sa voix. Au départ, les gens riaient sur la voix. Sauf que là, vu que la tension est que, tu vois, j'ai plutôt un public de gauche, clairement, les gens sont en mode. Ah.
Si tu dis la dette, c'est la dette. À un moment donné, il faut bien la rembourser. Hein. À mon avis, les gens comprendront que la vanne, c'est.
Oui,
qu'il
puis
est
les
con
gens, parfois, ont envie de rire et d'être d'accord.
Oui.
Et encore particulièrement en ce moment, ouais, c'est relou. Mais en effet, tu vois, j'avais une blague. Attends, qui était sur quoi où je disais baiser avec marié, bon, c'est pas terrible. Je dis, enfin, c'est sympa sur le moment, quoi. Je dis, comme le réchauffement climatique, oh cool, il fait 30 degrés en novembre, mais en fait, non, c'est pas marrant. Ça, elle marche énormément parce que les gens sont soulagés de rire avec.
On a un bel été.
Voilà.
Ouais, mais les ours meurent. Oui, mais on a un bel été.
Ouais. Et tu vois, c'est compliqué d'être encore noir. Tu vois, sur scène, j'ai une bouteille d'eau et je voulais dire, j'aime pas le goût de l'eau dans la gourde. Mais je me dis, putain, derrière, faut que je trouve une fucking vanne. Parce que sinon, les gens vont. Tu vois?
Bah ouais. Ouais, faut une vanne dessus, ouais.
Ouais, faut une vanne sur le goût du sperme, j'en sais rien. Enfin, le goût de quelque chose.
Ouais.
Parce que sinon, si la blague est pas suffisamment forte. Comme je pars d'un truc sur lequel mon public ne va pas être d'accord avec moi, enfin, même s'il le fait lui aussi, mais il sait que c'est mal, il faut vraiment. Mais c'est bien, ça met le niveau d'exigence très haut. Tu
as une bouteille en plastique?
Ouais.
Bah, tu peux dire. Ouais, après, tu peux faire des vannes en disant que c'est du plastique recyclé. Bref, on ne va pas là. Mais moi, j'avais des vannes là-dessus. J'avais une bouteille en plastique et je disais, ouais, mais c'est la même depuis 8 ans.
Ah,
comme ça,
c'est
tu
marrant.
Vois.
Non, mais parfois, il y a des trucs.
Je l'ai ramassé dans une favela ou tu vois, un truc comme ça. J'ai testé plein de trucs.
Bah moi j'aime pas le goût évidemment de la paille en carton. C'est comme tu vas pas bouffer un frozen yogourt avec une cuillère en carton. T'as pas le goût du yaourt, t'as le goût du carton.
Le goût du
carton. C'est absurde, le goût du carton.
Ça pourrait être le titre d'un essai. Le goût du carton.
Le goût du carton.
Ouais, c'est très beau. Prochaine rentrée littéraire, le goût du carton.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pardon.
David.
Oui.
La qualité que tu préfères chez un homme?
Le calme.
La qualité que tu préfères chez une femme?
L'humour.
Le principal trait de ton caractère?
L'humour.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
Je vais pas redire l'humour, je vais redire le pardon.
Ton principal défaut?
La rancune.
Ton occupation préférée?
Dormir.
Ton idée du bonheur?
Dormir.
Quel serait ton plus grand malheur?
Je sais pas. Je sais pas. Je réfléchis à ça souvent. Je ne sais pas. Ça risque d'être, comme tout le monde, de perdre un enfant. Mais comme j'en ai pas encore, je sais pas. Donc pour l'instant, je dirais que ce serait de prendre plus de 5 kilos. Non, mais je pense que j'ai une incapacité à... Comme beaucoup de gens sombres, si je peux développer juste un peu.
Bien sûr, ouais. T'inquiète, on ne nous a pas mis dehors, je suis contente.
Comme beaucoup de gens, parce que j'ai toujours été sombre. J'ai une vision sombre des choses depuis le début, depuis mes premiers souvenirs. Mais en fait, il ne m'est pas arrivé de malheur. Il ne m'est jamais arrivé de vrai malheur. Mes parents sont toujours là. Il y a eu des pertes, il y a eu des choses, mais il ne m'est jamais vraiment arrivé de malheur. Et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à me projeter dans ça. À me dire... Voilà. Le jour où il m'en arrivera un, ce sera quoi mon plus grand malheur? Je sais pas, en fait. Je sais pas. Je préfère continuer à pas savoir, d'ailleurs. Je crois que quand ça t'arrive dessus, tu t'en aperçois. Pour moi, c'est un peu comme la mort. J'ai pas du tout... Je pense jamais à la mort. Quand ça arrivera, quoi.
Mais un grand malheur, tu sais, ça peut aussi t'être transmis.
Ouais, mais justement, je...
Ta famille, tes parents n'en ont pas connu?
Si, ils ont connu des malheurs, mais des grands malheurs.
Tes parents, c'était pas des gens qui souffraient, qui étaient très sensibles, très, très...
Non. Mes parents sont des gens très gentils.
Très normaux.
Très normaux, très, très sensibles, si, bien sûr. Non.
Il n'y a pas eu de suicide?
Il y en a eu il y a très longtemps dans certaines branches de la famille, mais on peut pas... J'ai essayé de faire de la psychogénéalogie, parce qu'on m'a dit c'est intéressant, et c'est vrai que c'est intéressant, parce que je sens bien qu'il y a des trucs qui n'ont pas été dits, etc. Maintenant, je le sens, parce qu'on me l'a dit, en fait. On m'a dit, mais tu sais qu'en fait, ton cousin, ton bisaïeul, Jean-Albert, il s'est suicidé d'une balle dans la tête en 1908. Je fais, ouais, bon, maintenant, c'est loin quand même, 1908... Ça commence à faire.
En général une génération, ouais. mais pas...
Mais non, en fait, non. Je ne peux pas dire qu'il y a eu des grands malheurs. Il y a eu l'histoire. Il y a eu l'histoire. Dans notre famille, il n'y a pas eu de malheur.
Mais peut-être que c'est pour ça que ton humour est plus en observation qu'en autodérision. J'ai l'impression que les gens qui parlent d'eux, beaucoup, sont, dans lesquels je m'inclus, des gens très, très névrosés parce qu'il y a un héritage, une voix, une
peut-être,
Alors que les gens qui observent, mais tu vois, comme Haroun aussi, sont... Et lui, alors lui, il assume à 2000%. Il n'y a pas un poids de... Après...
Il y a le poids de l'exil.
Il y a le poids de l'exil, il y a le poids d'être feuge aussi, quand même, mine de rien, mais bon.
Mais il n'y a pas...
T'as eu pas de gens déportés proches?
Non, même proche. Il n'y a que des séfarades.
C'est ça, c'est la joie, quoi.
Séfarades et des Français. Donc, il n'y a pas de... Il y a eu des résistants.
Ouais.
Des résistants,
ça, c'est chouette.
Des résistants français, non-juifs, il y en a. Il y avait des résistants corrèzes, etc., que j'ai connus. Donc, ça, c'est plutôt cool. Des résistants, des maquisards, des choses comme ça. Donc, il n'y a même pas de trucs, tu vois, sales de... Il n'y a pas de mauvais souvenirs, il n'y a pas de... Après, les histoires de famille, de machin, d'inceste, etc., par exemple, j'en ai jamais entendu parler. Il y en a forcément eu, mais je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit. Il y avait des cons, quoi. L'oncle machin, c'était un con. Tu sais, tu te rappelles, l'oncle machin, c'était vraiment un con. Mais donc, c'est vrai que je pars un peu...
En fait, c'est une noirceur, mais c'est une noirceur distancée. C'est-à-dire
c'est
que
ça, ouais.
C'est une noirceur distancée, une noirceur d'observation, de constat, une noirceur d'empathie par rapport au monde.
C'est ça.
Mais c'est pas une noirceur à la Blanche Gardin qui, elle, a vraiment une personnalité dépressive. Et donc, c'est tout ce... Toi, t'es pas... T'as pas envie de
c'est
mourir.
Ça. En fait, c'est ça aussi le malentendu avec moi, je pense. C'est qu'on m'a toujours dit humour de dépressif, etc. Je n'ai n'ai jamais, mais alors jamais, je n'ai jamais pris un médicament de ma vie. Je n'ai jamais songé au suicide, même à l'adolescence, même à aucun moment. J'ai songé à tuer des gens, oui, souvent, mais à jamais au suicide, jamais, jamais, jamais. Et c'est marrant parce que je m'aperçois que c'est pas si répandu que ça, j'ai l'impression, d'avoir jamais eu de pensée vraiment noire, en fait. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, hein, mais je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont eu des pensées noires. Ouais. Des, voilà. Et moi, jamais, en fait. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu genre, moi, tout va bien, mais je veux dire que tout va mal. Mais en fait, ça n'empêche pas d'être lucide.
Ça fait de toi un peu un énergumène dans le milieu du stand-up, dans le sens où, comme c'est très catégorisé, ouais. T'as d'un côté, on va dire, les humoristes clichés, séfarades, joyeux, c'est-à-dire très énergiques, très, on va dire, d'un héritage à la Gad Elmaleh, ouais. Ou même du Jamel Comedy Club, même oui, à la voilà. Jamel, c'est-à-dire
très positif,
ouais. Très joyeux, et t'as un héritage plutôt de l'humour venant des États-Unis, de New York, ouais. et transmis par Blanche Gardin, qui a un humour d'autodérision frôlant l'autodestruction.
Mais
toi, t'es en fait plus des proches, c'est-à-dire un humour français oui. D'observation et de mots, quoi, de langage.
Bedos. Moi, ouais. C'est mes références, c'est les références de mon âge. Hein. Moi, c'est des proches avant tout. Et des proches, je l'ai lu avant de le voir sur scène. Hein. Je l'ai lu à 13 ans et tout, et ça m'a vraiment profondément marqué. Donc c'est plus ça,
Il parle pas de lui, des proches, mais c'est sublime.
Quand il en parle, il dit qu'il est très heureux et que le bonheur est insupportable, etc.
Ouais, mais c'est de la poésie, quoi.
C'est ça. Ouais. Et en fait, ça me va. Et en fait, d'ailleurs, de plus en plus, le personnage qu'il était sur scène, c'est ça que je veux, en fait. Parce qu'il disait des trucs très durs, mais toujours avec un petit sourire espiègle.
Ouais.
Et c'est plus ça que je veux être maintenant. C'est quelqu'un d'espiègle. Qui dit des choses très dures parce qu'il faut les entendre, mais voilà, je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument faire la gueule et que c'est pas et que, effectivement j'ai pas cette noirceur en moi finalement, et je suis content de pas avoir ce qu'a vécu Blanche Gardin, tu vois. J'ai pas envie d'avoir je suis très content de pas m'être scarifié ou de pas avoir fait de tentative de suicide ou pas avoir connu une agression sexuelle. Enfin, je vais pas me plaindre non plus d'avoir une enfance heureuse, tu vois, à part que j'étais asthmatique, binoclard et avec des piques sans manche.
Mais même ensuite et après tout, c'est même pas un événement, parfois c'est juste un rapport à soi qui est plus tant mieux, tu vois.
Il pourrait n'y avoir aucun traumatisme et je pourrais être très beaucoup plus malheureux.
Le seul en scène que j'ai vu, la comédienne disait beaucoup, en tout cas je l'ai entendu, qu'elle était belle.
Ouais, c'est bizarre.
Et c'est bizarre.
Ouais.
Mais c'est fou de dire ça, de dire de soi qu'on est belle. Ouais. Et je me suis dit, c'est impossible.
Bah ouais, moi
aussi. Mais c'est trop. Mais bon.
Je dirais, c'est bizarre.
Faut pas.
Non.
Mais d'ailleurs, il ne faut pas non plus dire qu'on est intelligent.
Non, surtout pas.
Surtout pas.
Il ne faut jamais le faire sentir aux autres qu'on pense qu'on a compris un truc mieux qu'eux.
Non.
C'est pour ça que c'était des erreurs que je pense avoir faites aussi au début. Il faut toujours dire, il me semble que, mais peut-être que je me trompe.
Moi, je fais sentir que je suis intelligente que quand je sais que la blague, elle est un peu nulle. C'est-à-dire, en fait, si je sens que la blague, elle est un peu fragile en termes de punch, mais que je l'ai écrite de façon à ce que, au moins, elle fait genre, regardez, je suis un peu intelligente, c'est bien écrit. Ouais. Les gens qui rient pas ont un petit « Oh, d'admiration !» Je me dis « Bon, allez, je prends. » Donc, en fait, c'est pas la...
Moi, je disais souvent, écoutez, si vous... parce que souvent ça revenait un spectacle intelligent, intelligent, et à un moment donné, j'ai dit, un spectacle intelligent, je parle aussi de ma bite, quoi. C'est pas parce que je dis trois mots, trois citations et que je sais à peu près ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale que c'est intelligent. Ouais. C'est juste que voilà, je suis un peu cultivé et désolé, bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que. Maintenant, j'assène pas les vérités, quoi. Je suggère des trucs. Moi, j'ai deux, trois opinions, mais même maintenant, ça devient un peu fluctuant, donc je les suggère.
Ouais.
Et puis voilà, les gens les prennent, et puis je suis un pessimiste joyeux, quoi, voilà.
Ouais. Mais c'est très difficile aussi dans les interviews quand les gens te demandent, est-ce que votre spectacle est féminin ?
Ouais, c'est vraiment des questions de journaliste à la con, ça.
C'est féminin ?
Ouais.
J'ai dit, vous voulez dire, vous me demandez est-ce que je suis féministe ?
Féminin. On m'a demandé féminin. D'accord. C'est ce que ma rédactrice en chef m'a demandé.
Non, c'est pour les femmes et pour les hommes. Après, moi, je suis féministe. Moi, personnellement, je suis féministe. Mais je ne pense pas, en fait, tout à fait que mon spectacle ne le soit. Je pense que mon spectacle l'est par endroit et pas par d'autres.
Voilà.
Mais qu'en tout cas, si certains peuvent l'interpréter tel quel, ça ne veut pas dire, en tout cas, qu'il est militant. Quoi.
Bah, surtout pas. Il ne faut jamais avoir un spectacle militant. Sinon, ça devient casse-couille, casse-over ou ce que vous voulez. Mais moi, je ne peux plus, en fait. Et c'est pour ça que j'aime pas quand on me dit Une ou deux fois, on m'a dit tu prends trop de positions. J'ai dit non, je prends pas position. T'as écouté un sketch ou trois vannes où je tapais sur quelqu'un que j'aimais pas au hasard, Macron. Ça veut pas dire que je prends position. Ouais. C'est pas un spectacle militant.
Mais après, je comprends les spectateurs dans le sens où moi aussi, en tant que spectatrice, parfois je suis un peu coconne. Quand j'entends un mec sur scène dire qu'il est féministe, j'ai envie d'applaudir. Je suis trop contente. C'est un peu facile. Je me fais un peu avoir. Mais je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Ça change. Je trouve ça cool. En fait, tu vois, c'est vrai que je me fais un peu. Alors parfois, ça dépend ce qu'il y a après et tout. Mais il faut pas que ce soit faut que la blague elle soit très bonne, mais quand tu ressens qu'il y a une petite faut pas que ce soit politique, parce que aussi tu vois, il y a des gens qui ont fait leur spectacle entier sur le fait qu'ils étaient féministes, et puis tu les invites dans ton podcast, en fait ils t'envoient bouler, bref. Mais parfois je sais pas comment dire, il y a un peu parfois je comprends que le public ait envie d'être un peu validé dans certaines opinions.
Oui, bah c'est sûr, si tu dis moi le racisme je trouve ça pas bien, les gens vont faire moi aussi, mais après faut qu'il y ait une vanne. Donc quand je dis moi faut je suis féministe, je dis parce qu'on est obligé.
Mais oui, elle est très drôle, elle est très drôle.
Et après je déroule, mais parce que enfin, drôle, en tout cas, elle surprend, parce que si je dis je suis féministe, pour après derrière dire c'est quand même terrible ce qui se passe en ce moment. Moi, je vais vous dire, les filles, je suis avec vous pour avoir des applaudissements, mais quelle horreur, mais mourir, va mourir quoi.
C'est hyper incolore.
Mais c'est dégueulasse la façon dont vous traite dans la rue. Franchement, les mecs, on pourrait pas être un peu différents. Bah, visiblement, non, a priori, hein, ça marche pas.
C'est clair que parfois c'est fait vraiment pas bien.
Bah, c'est fait avec des gros sabots. Quoi.
Avec des gros sabots, ouais. Mais c'est comme proches. Les gens, en effet, qui disent « je suis de gauche sur scène ». Vraiment, parfois, c'est aussi un petit peu faire un sketch d'un mec qui est là, genre « ouais, je suis de gauche, tout machin, ben non, je suis de gauche ». Il le dit 50 fois et à la fin, je suis là « bah, je crois pas, non ».
Non.
Sinon, t'aurais pas...
t'aurais pas besoin de te persuader.
À le dire autant, ouais, c'est vraiment de l'autoconviction.
Mais on peut pas être humoriste et asséner d'entrée ses opinions politiques. Moi, je pense que je tape à peu près sur tout le monde. Forcément, tu sens bien que j'ai des têtes de turc. Tu vas plus taper sur des gens qui m'énervent. Que, voilà.
Oui, et puis après aussi, tu as le droit de ne pas avoir envie de plaire forcément à tout le monde. Moi, peut-être que oui, si je le dis à un moment, que je suis de gauche, je dis, ce que je dis que je suis réac, et je dis, ok, je suis réac, mais attention, mais tu l'avais entendu, ça je dis, je suis la gauche caviar sans le caviar, la gauche tarama. Je trouve ça très sincère, en fait, parce que c'est pile l'endroit où je suis, où je me moque de cette espèce de socialisme, j'en sais rien, où tu vois, je vais pas en effet. Fait, mais bon, bien sûr que tu vois
que t'as quand même quelques penchants,
des penchants,
convictions, c'est peut-être aussi parce que je retiens toujours ce que disaient des proches de l'humoriste dégagé. Clairement, des proches, ils aimaient pas Mitterrand, et à un moment donné, les gens le traitaient de droitard, etc. Enfin, tu te dis, mais tout cela est tellement vain en fait. Les étiquettes aussi
simples.
Oui,
puis les clans et les camps, il faut faire attention parce que tu veux faire partie d'un camp, mais tu t'en seras exclu le lendemain même.
Bien sûr.
Ouais, c'est pour ça.
J'ai été manifesté plusieurs fois dans des manifs de gilets jaunes parce que je trouvais ça important d'y être. J'avais l'impression de passer à côté de quelque chose. Et je pense que plein de gens sont passés à côté de quelque chose. Mmh. Et c'était intéressant d'aller parler aux gens. Alors, je ne faisais pas le journaliste, mais je leur parlais. J'essayais de savoir, comprendre ce qui se passait. C'était un moment hyper important. Et il y a plein de gens qui n'ont même pas fait cet effort. Et qu'on soit de droite ou de gauche. Et je me retrouvais avec des gens qui... Alors, en plus, le mouvement a évolué. Puis après, il y avait des accusations dans tous les sens. Mais globalement, maintenant, on a bien compris que c'était avant tout un sentiment de ras-le-bol, une révolte. Et il y a eu un tel mépris pour ça, aussi bien de droite que de gauche,
Je me suis dit,
ça ne signifie rien, la droite ou la gauche. Puisque finalement, c'est le même mépris de classe, pour le coup.
Complètement.
Toutes les émissions télé qui revenaient. Et surtout, on parlait de France Inter, ils ne savaient pas quoi en faire des gilets jaunes. Clairement, ils ne comprenaient pas. Pas mieux que BFM, pas mieux que les abrutis qui disaient faut envoyer l'armée, etc. En fait, mais les gars, mais sortez littéralement de chez vous, de chez vous, quoi. Sortez du 8e arrondissement et allez voir ce qui se passe vraiment. Enfin, non, parce que ça se passait dans le 8e arrondissement. C'est ce que je disais d'ailleurs, je disais, je peux vous dire que dans le 8e arrondissement, les bourgeois ont eu les miquettes, je le sais parce que j'habite dans le 8e arrondissement. Ce qui était vrai, j'habitais juste à la limite 8e, 9e.
Ouais.
Et donc, j'étais aux premières loges, quoi. Et c'est pareil pour les manifs anti-pass sanitaires. Moi, j'y suis allé parce que c'est intéressant. Et puis parce que t'as pas que des excités anti-vaccins. T'as plein de gens qui sont juste inquiets pour les libertés publiques. T'as des avocats, voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas marrant de se balader en permanence avec un... Je mets au défi quiconque de me dire que ça le fait marrer de se balader avec un QR code jusqu'en 2035. C'est pas vrai que c'est drôle, en fait.
Non, bien sûr.
Donc tout ça, c'est des... Pour moi, voilà, si je dis tout ça, bah les gens, à mon avis, ils ne peuvent pas savoir si je suis de droite ou de gauche, ou LFI, ou machin, ou truc, ou tout ça, parce que c'est pas le problème, en fait.
Ouais.
D'abord, il faut se renseigner pour faire des blagues, il faut savoir de quoi on parle.
Mais c'est qu'en fait, très vite des choses qui tendent. Et d'un coup, il suffit que tu aies une image de les gilets jaunes ont arraché le voile d'une meuf voilée à un rond-point.
C'est des fachos.
C'est des fachos, t'as pas envie. Voilà. Dans les manifs, pour en avoir regardé, oui, t'as ce truc, mais en même temps, t'as l'impression que le cri à la dictature devient un peu insupportable,
quand tu vois aussi ce qui se passe en Afghanistan.
C'est vrai que cette histoire de dictature française, de dire je ne supporterai pas de montrer mon QR code pour aller au théâtre, t'es là, mais déjà t'es à l'entrée d'un théâtre,
Tout ça et tout ça est vrai, tout est vrai en même temps. Évidemment, ça n'est pas la dictature de l'Afghanistan. Évidemment, c'est pas la Chine, mais la Chine. On a tous les instruments qui sont disponibles. On a des gouvernements qui mettent en place des instruments qui seront là quand un autre gouvernement arrivera. Et le gouvernement, on ne sait pas qui ce sera. Et les instruments sont là, en fait. Donc, c'est normal quand on est avocat ou qu'on bosse à Amnesty ou je ne sais pas où,
ça s'intéresse à tout ça. On donne déjà toutes nos informations aux Américains et aux Russes et aux Chinois. Avec les tu vois, quand tu es sur Facebook...
Non, on peut dire, je ne veux pas t'aimer mes cookies.
Mais non, mais quand tu es sur Instagram et tu vois, nous, on a déjà donné tellement que ces résultats, tu te dis, je ne vais pas donner à ceux pour qui, pourtant, je donne mes impôts. Je ne vais pas donner aux Français. Je vais choisir de donner aux Américains, aux Russes et aux Chinois, mais pas aux Français.
Non, c'est bizarre. Sûr. Non, mais les infos, personnellement, j'en fiche, moi. C'est plus le
réflexe de se soumettre
C'est ça, la normalité c'est, tu vois, par exemple le fait qu'on ait notre carte d'identité en permanence en France, aux États-Unis jusqu'aux attentats et au Terrorist Act, au Homeland Security, etc. C'était pas obligé de se balader avec un truc d'identité. D'ailleurs, même encore maintenant, ils ont juste leur permis de conduire, etc. En France, c'est obligatoire. En Angleterre, les mecs, jusqu'à récemment, ne comprenaient pas qu'on soit obligé de se balader avec nos papiers d'identité en France. Qu'on nous les demande. Pourquoi ? Mais si j'ai envie de ne pas l'avoir, vous allez au poste, monsieur. C'est un truc qui peut paraître aberrant dans d'autres pays, en fait, dans d'autres démocraties. Et en France, moi, mes parents sont avocats. Donc, j'ai quand même été élevé dans une certaine défiance, pas défiance, pas méfiance, mais une certaine, comment dire, prudence vis-à-vis de l'État. Voilà, l'État, la police, tout ça, c'est quand même... Il y a un track record qui n'est pas très bon.
Bien sûr,
1961,
mais évidemment, les Algériens dans la scène.
C'est
et tout
une
ça.
Police démocratique, en théorie. Donc voilà, donc je pense qu'évidemment, il ne faut pas être annexité et hurler en permanence à la dictature et Bill Gates a pissé dans les fioles et tout ça, mais bon, faut quand même.
C'est juste que la dictature, en effet, je trouve que pour moi, ce qui s'en rapproche le plus, c'est pas en ce moment l'État que Bolloré, vraiment pour le coup.
Mais c'est un danger aussi. C'est ça. Tous les dangers sont en même temps, en fait.
Ouais. Sauf que là, c'est un danger noir, sans aucune lueur de. Enfin, tu vois, c'est le level de corruption. Alors qu'il y a l'ambiguïté de savoir si l'État veut pas aussi te protéger. Et t'as aussi. Ouais. Moi, je ne peux pas m'empêcher de sortir de 2 ans de confinement où j'ai touché une intermittence tous les mois.
Mais moi aussi. Mais à côté de ça, article 24, loi sur la presse qui n'a plus le droit de faire. La loi sur la protection des sources, elle est minable. Il y a tout un arsenal juridique qui s'est mis en place ces 2 dernières années qui n'est pas vraiment très bon pour les libertés publiques.
Ouais.
Donc ça arrive pas de nulle part. C'est un débat sans fin parce que je pense que est dangereux.
C'est un débat passionnant. Et tu vois, moi, vraiment, je n'ai aucune sympathie pour Macron, mais son analogie de on restreint, quand t'es ivre, tu n'as pas le droit de prendre ta voiture. Oui. Alors on restreint ta liberté, certes, mais c'est pour pas que t'ailles buter quelqu'un en voiture. J'ai trouvé assez juste pour le coup.
Oui, mais la proportionnalité fait que la durée doit être limitée dans le temps, etc. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça n'est pas le cas.
Ah, faut qu'on termine. Attends, je te pose les 3 dernières questions. Ton état d'esprit actuel ?
L'optimisme, forcené.
Et enfin, est-ce que tu as une devise favorite ?
Non, je crois pas, mais je vais reprendre celle que j'aime beaucoup, qui était la devise des chiens, selon les nuls. C'est « Si tu peux ni le bouffer ni le baiser, pisse dessus ».
Merci, David.
Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode avec David Azincott ? Dites-le-moi sur Apple Podcast. D'ailleurs, je remercie pour leur adorable avis Diane Rêve et Mélanie Elmel 22. Vous avez été nombreux à m'écrire que ma dernière outro, celle de l'épisode 67 avec Adrien Arnoux, vous avait particulièrement touché. Merci beaucoup.
Merci à Laurie pour sa critique biéréduque du plateau des mecs que je veux ken. N'oubliez pas, prochaine édition lundi 15 novembre à 20h à la Nouvelle Scène. Je recevrai Seb Melia, Laura Domange, Florian Ardonne et Aude Alisque. Je ferai des petits jeux pour vous faire gagner des tote bags. Et dès que j'ai plus de temps, je commande d'autres goodies, tasses, carnets, cartes postales. J'essaierai aussi de refaire partir une newsletter mensuelle, peut-être après la sortie de chaque plateau capté, si je trouve le temps. Bientôt, j'aurai un site internet et ça sera plus facile pour vous que de me laisser votre adresse mail et votre ville. Comme ça, le jour où je serai en tournée près de chez vous, eh ben, je vous le dirai. J'essaie aussi de mettre à jour le compte Instagram des mecs que je veux ken dès que je trouve une minute, mais il n'y a pas assez de minutes dans une journée. J'avais envie de vous raconter dans cette outro une aventure qui m'est arrivée récemment. J'ai été invitée à la soirée BDSM Démonia dans le cadre de l'autre podcast auquel je participe, Hotline, sur Spotify. L'épisode sur ce sujet devrait sortir vendredi prochain, le 12 novembre à 17h30. Peut-être que j'en parlerai moi aussi avec des invités de mon podcast ou que je testerai des blagues à ce sujet sur scène. Ça donnera peut-être un nouveau set, à voir ou pas. Parfois, je me dis tiens, je vais raconter ça sur scène et puis ça manque de punch, de blagues, l'impro est périlleuse. Surtout quand le public est moins joueur, a priori plus réservé. C'est étonnant. Vendredi soir dernier, j'ai eu un public très chaud avec lequel il était facile d'interagir. Et samedi soir, ils étaient beaucoup plus timides, plus hétéroclites. Des gens là, totalement par hasard et peu convaincus. À côté de vraiment des fans du podcast, ça se sentait, qui ont crié bravo aux applaudissements et m'ont laissé des critiques sur Biéréduc incroyables. Mais samedi soir, plus difficile d'interagir avec eux quand même. Ils étaient plus susceptibles, certains, ou moins naïvement joyeux. Et moi aussi, j'étais peut-être un peu fatiguée, ça s'est pas vu. Mais là, je frôle un peu le burn-out, en vrai. Je suis assez fatiguée, j'ai mes petits soucis d'oreille interne qui pointent. Et donc ça s'est peut-être ressenti ou pas sur ça. Non, je pense que ça s'est pas ressenti. C'est moi qui le ressens, je pense que les gens étaient contents. Mais moi, je le ressens. Mais en tout cas, j'ai fait une impro qui n'a pas fonctionné vraiment parce que c'était trop court et un peu glauque. En fait, je voulais parler de sexisme sur scène, mais il faut que je l'écrive. Je voulais parler des plateaux. En fait, récemment, il m'arrivait un truc, c'est pas très grave. Décidément, chaque outro, je balance. Mais je vais pas balancer de nom, mais en fait, il y a un truc qui est relou, c'est que les derniers plateaux que j'ai faits, ça m'est arrivé que les mecs, les humoristes qui passent après moi commentent mon set. Je sais pas si vous voyez, en fait, normalement sur un plateau, on se suit les uns les autres. Par exemple, je sais pas, Rémi Boy fait son set, et maintenant il dit « Et maintenant, un maximum de bruit pour Rosa Burstein, j'arrive ». Et je dis « Encore du bruit pour Rémi Boy ». Ils applaudissent Rémi, et puis moi je dis « Bonsoir », et ensuite j'enchaîne avec mon set. Et moi, je commente jamais le set de la personne avant. Et en fait, les mecs, ils viennent et ils commentent mes passages pour créer de la complicité là-dessus avec le public à mon détriment. Alors, c'est pas aussi, diabolique, hein, c'est des copains. Mais donc, et puis moi, j'en ai marre de passer pour la relou, donc je dis rien, hein, je rigole pour être cool, mais en vrai, ça me saoule. Là, je vois le pattern parce qu'au départ, j'ai été surprise, ça m'est arrivé il y a quelques temps, de faire un plateau et un pote, pourtant, qui passe après moi et qui dit... Bonsoir, et vous pourrez retrouver Rosa à l'hôpital psychiatrique de nanana, tous les machins, etc. Parce que, en fait, j'avais fini mon set en faisant « Et rendez-vous tous les vendredis et samedis 21h à la Nouvelle Scène ». Et il est monté sur scène en disant « Et vous pouvez aussi retrouver Rosa à l'hôpital pour faire une blague, en fait, sur le fait que j'étais folle ». Et bon, c'est pas très marrant. En vrai, gars, vas-y, fais tes blagues, fais ton set, viens pas commenter mon passage, quoi, c'est relou. Même si, évidemment, ça fait rire les gens, mais c'est un peu facile, en fait. C'est un peu facile, moi, j'apprécie pas. Et ça casse l'image que j'ai laissée aux gens. En fait, au lieu que les gens gardent l'image de mon passage, ils gardent l'image de la vanne que m'a sortie le mec après moi, auquel je peux pas répondre puisque je suis plus sur scène. Donc c'est vraiment super relou. Il y a eu ça. Et je me disais bon, si c'était anecdotique, mais le problème c'est que ça se produit souvent. Hier soir, ça s'est produit deux fois. Un plateau que j'ai fait avant mon spectacle, un plateau que j'ai fait après. Le plateau que j'ai fait avant, j'ai fait des blagues que je fais sur mon nom de famille qui sont ouais, qui sont un peu culs, un peu osés, mais bon, c'est mon style et ça plaît. Et le mec qui passe après moi, il arrive et il fait... Il ne dit même pas bonsoir aux gens. Il dit, alors, vous bandiez ? Elle vous a fait bander ? Et alors, évidemment, les gens rigolent, mais en fait, t'es la gars... Enfin, moi, j'ai fait de l'humour, je suis une camarade humoriste, en fait. Parle pas de moi comme si j'étais... Enfin, j'en sais rien. Donc, c'est pareil, c'est fastoche, c'est relou. Vas-y, gars, fais ton set, fais ton putain de texte. N'improvise pas sur... à chaque fois, en plus, je suis la seule meuf du plateau. Et ensuite, le set après, le mec se dit « Et encore du bruit pour Rosa, bur. » Et en fait, il fait des blagues. Il essaye de refaire des blagues sur mon nom de famille que j'ai faites pour dire « Ah ouais, son nom de famille est vraiment compliqué. » C'est pas méchant. Mais on se croit souvent. Encore du bruit pour Rosa Burstein. Si t'arrives pas à prononcer mon nom, encore du bruit pour Rosa. Bonsoir, vous allez bien? Et gaffe, fais ton texte, en fait. Viens pas commenter le mien derrière. C'est très relou. Et en fait, les mecs le font pas. En plus, ils osent pas le faire entre eux. Hein. Ils le font exprès aux nanas parce qu'ils savent qu'on est gentils et qu'on va pas aller les emmerder. Et j'en peux plus, en fait, moi, d'emmerder, de râler en direct. Je suis là, en fait, j'ai plus la force, je suis trop fatiguée. Mais c'est l'un des trucs qui me dégoûte des plateaux, en effet. Ce sexisme, ordinaire. Et relou, quoi. Mais deux mecs, en plus, très marrants, très sympas. C'est juste... alors, il faudrait leur dire, mais bon... flemme. Peut-être, ça se trouve, ils entendront ce podcast et ils comprendront et ils réfléchiront et ils verront de même que c'est relou, quoi. Moi, ça m'est jamais arrivé de commenter le passage de quelqu'un qui passait avant moi. Jamais. Peut-être pour dire un compliment. Il ou elle est formidable sur mon plateau, mais c'est tout, quoi. Et pourtant, c'est important, les plateaux. On me demande parfois, je croise, on me dit « Mais pourquoi tu fais autant de plateaux ?» Parce que c'est quand même un exercice d'efficacité. Ça permet de... Quand même, les passages du spectacle qui sont le plus efficaces, c'est quand même les passages que j'ai pu tester en plateau. Et les passages les plus profonds et les plus originaux, c'est des passages que j'ai jamais fait en plateau. Donc c'est qui tout double, j'entends. Et je sais pas encore quelle est la solution. Mais je vais ralentir au mois de décembre, parce que ça fait plus d'un mois que je suis pas allée au cinéma. Il y a tellement de films qui sont passés. On m'a dit « Ouais, tu ressembles à la meuf du film de Joachim Trier ou je sais pas quoi, Julien, cette saison, enfin je sais plus. » J'ai dit « Ah ouais, c'est un film que j'avais envie de voir, mais j'ai pas eu le temps. Je voulais voir le James Bond. » Il y a plein de films que je voulais voir. Et en fait, je joue tous les soirs, donc j'ai pas pu. Donc là, décembre, je vais commencer un peu à dire non ou à arrêter de faire des trucs gratos aussi. « Ah ouais, ça serait sympa que tu participes à ça. C'est gratos. Il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas d'argent, mais c'est sympa, on est gentil. C'est gratos. » Pareil, commencer un peu à trier tous ces trucs parce que c'est fatigant. Mais bon, ça fait aussi partie du biz et du... Voilà. Du lobbying, je sais pas. Il faut jouer le jeu, il faut trouver un entre-deux. Il faut trouver un entre-deux, mais ce qui reste quand même bien précieux pour moi, c'est mon spectacle et mon podcast. Donc je vous remercie encore une fois d'être là et je vous embrasse bien fort.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.